T'as créé une compagnie d'assurance. C'est un truc de malade mental quand tu réfléchis. Moi, j'aime la bouffe, mais je suis aussi content de manger un kebab que d'aller dans un 5 étoiles. Très important de savoir se remettre en question et de se dire, c'est moi qui ai déconné.
Antoine de Saint-Exupéry disait « Les étoiles sont éclairées pour que chacun puisse un jour retrouver la sienne. » Moi, c'est Alex, et sur Double Dose, je vous invite à la rencontre de personnalités, entrepreneurs et sportifs, qui vont vous inspirer à entreprendre les projets qui vous tiennent à cœur. Derrière les succès, les réussites et les échecs, il y a avant tout des hommes et des femmes que j'avais envie de vous présenter sous toutes leurs facettes. Bienvenue sur Double Dose. Bienvenue sur votre podcast. Nous voici dans le 16e avec des chocolatines, des croissants, des petites chouquettes, un jus d'orange, fruits frais. Moi, j'en prends pas. Voilà, je l'ai expliqué à Ralph. Je fais le marathon dans quelques jours. Bon, je pense que quand l'épisode sera sorti, j'aurai déjà couru.
Tu reviendras.
Voilà, je reviendrai goûter pour de vrai les chocolatines parce qu'elles ont l'air vraiment incroyables. Vous imaginez pas la couleur qu'elles ont, ce petit doré que je vois. Mais bref. On n'est pas venu pour parler chocolatine. On est venu pour parler de belles histoires, pour parler de parcours, pour parler assurance. Et mon invité, il est là avec son sweat Achille.
Comme toujours.
Bleu, très sympa, comme toujours. Ouais. Mais tu l'avais sur un événement en plus.
Je suis toujours habillé en Achille depuis presque 2 ans.
T'es le meilleur RP qu'il puisse y avoir.
Bah, si moi je le fais pas, qui va le faire?
Ralph Rumi est mon invité. Comment ça va, Ralph?
Ça va, super. Merci de l'invitation. C'est très sympa.
Mais merci de l'invitation aussi. On est bien installés dans les canapés. Je me sens un peu l'ENA situation, tu vois. Canapé 6 places, sauf que là, il y a 4 places.
Ouais, mais on peut en trouver 2 autres, hein, ouais. si ça t'arrange.
Est-ce que je peux te laisser te présenter, que nos auditeurs sachent un petit peu qui tu es?
Ouais, donc je m'appelle Ralph Rumi. J'ai 52 ans. Ça commence à faire, hein. C'est pas tout jeune.
Bon anniversaire en retard, c'était
merci,
il y a 2-3
jours,
je crois.
Hier, avant, ouais. C'était le 2 avril, ouais. C'était il y a pas longtemps. Voilà, j'ai 52 ans, donc je suis né au Maroc en 1972, dans la belle ville de Marrakech, une ville qui est chère à mon cœur, et je suis arrivé en France 2 ans plus tard, avec toute la famille, on est une famille de 4 enfants, et on est parti directement de Marrakech à Seine-Saint-Denis. Donc c'était un petit choc un peu différent. Et voilà, donc on a atterri dans une ville Rosny-sous-Bois, entre Montreuil et Noisy-le-Sec, dans une cité HLM un peu grande. Mmh. Et c'était le début de notre vie en France.
Très bien. Et donc Achille, peut-être un petit laïus sur Achille juste rapidement.
Donc on y reviendra. Achille, ouais, on est loin et du Maroc et de la Seine-Saint-Denis. Ouais. Donc Achille, c'est une compagnie d'assurance full digital, donc une vraie compagnie d'assurance. On a eu un agrément auprès de la CPR. Ça faisait 35 ans qu'il n'y avait pas un agrément aussi important. Donc c'est quand même un gros événement et beaucoup de travail d'en arriver là. Donc c'est une compagnie d'assurance. On fabrique des produits, l'habitation, de la santé, du chien-chat, de la multirisque immeuble, la PNO et plein d'autres produits. On a 42 produits. On est 50 personnes à Paris, 30 au Maroc. On a fait 157 millions de chiffre d'affaires en 2023 pour 1 million de résultats. Tout ça en bon gestionnaire, un bon père de famille, on n'a pas cramé beaucoup d'argent.
Bon, parfait, on y reviendra. Donc voilà, c'est juste pour mettre un petit peu les bases. Déjà, on sait qui tu es, on sait ce que tu as fait. Je reviens déjà dans ton enfance. Est-ce que ça t'a apporté quelque chose d'être né et d'avoir grandi à Marrakech, au Maroc? Est-ce que tu en gardes des souvenirs culturellement?
Alors, bien entendu, parce que ma culture, c'est la culture marocaine de mes parents quand on est arrivé. Donc le Maroc, à proprement dit... Non, puisque je suis parti, j'avais 1 an et demi, 2 ans quand je suis arrivé en France, donc j'ai pas de souvenirs du Maroc, mais on a continué à vivre comme des Marocains une fois qu'on est arrivé en France. Bah, les souvenirs, c'est plutôt la vie en cité plus la double culture qui forge ton caractère, qui forge qui tu es. Donc oui, fort attachement au Maroc, la preuve, on y retourne tous les ans, que ce soit mon grand frère ou moi, on a un besoin d'y retourner tous les ans et d'y aller. Maintenant, avec Achille, on a des bureaux au Maroc, donc j'y vais encore plus souvent que ce que je devrais y aller. Mais oui, on a un fort attachement à ce pays qu'est le Maroc. Mais bien sûr, mon pays, c'est la France et je suis très, 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 très fier d'être français.
Tu parlais de grandir en HLM. Ça t'a apporté quoi? Ça t'a appris quoi 40 ans, 50 ans plus tard?
Ça a appris quoi? Beaucoup de choses. Hein. La vie en cité, c'est la meilleure expérience du monde, en fait. J'aurais grandi nulle part pour rien au monde. C'est multiculturel, c'est des amis pour la vie, c'est... faut savoir se démerder, faut savoir vivre, faut savoir aimer. Et c'est qu'en fait, quand on vit dedans, on se rend pas compte qu'il existe quelque chose à côté. Okay. Donc c'est ça, dans mon expérience, la chose qui a été difficile, c'est quand je commençais à rentrer à faire les études et rencontrer des gens normaux qui avaient une autre vie que la mienne, je me suis dit, ah merde.
Ça existe,
mais quand tu habites dans une cité, ben la maternelle est dans la cité, le primaire est dans la cité, le collège est dans la cité, et le lycée il est à 300 mètres de la cité. Donc du coup tu vis dans ce microcosme, tu vis toujours avec les mêmes personnes. Moi j'ai des copains et des copines qui étaient dans ma classe de la maternelle à la troisième, toujours dans la même classe. Donc qu'est-ce que ça t'apporte à savoir te démerder un peu, à apprendre les gens, à les situations de la vie? Il y a l'intelligence de la vie, l'intelligence
au travail autre, qui n'est pas la même.
Au travail qui n'est pas la même, et je pense que cette vie-là, tu apprends l'intelligence de la vie un petit peu. En tout cas, tu n'as pas le choix, en fait. Si tu ne l'as pas, tu es mal. <C'est> mal.
Mais est-ce que c'est là que tu as commencé à apprendre à être sérieux sans te prendre au sérieux? Est-ce que c'est là que ça a commencé, cette histoire de Ralph qui ne se prend pas toujours au sérieux, mais qui fait les choses avec sérieux?
Ouais, c'est important, et c'est, je pense que ça vient de là. Parce qu'en fait, quand t'habites dans une cité, d'être bon élève, c'est jamais bien vu. Et donc, tu dois être bon élève, mais faire semblant que tu l'es pas. Tu dois être cool, mais réfléchis. Par exemple, nous, on a été élevés dans l'éducation stricte. Tu respectes tes parents, tu fais attention à tout ce que tu fais, mais t'es pas le père, la morale. À chaque fois que quelqu'un fait une connerie, tu dois faire semblant que ça te choque pas, mais ça te choque.
Ouais, ouais.
Tu dois avoir des bonnes notes, mais pas te la raconter. Tu dois faire des conneries qu'il faut en faire pour pas qu'on vienne te dire t'es un bouffon. Voilà, faut savoir tout ça. Donc oui, c'est toujours en train de... Moi, je suis quelqu'un de sérieux, qui travaille dur et qui aime le travail et qui a envie de réussir et qui veut avancer. Mais j'ai aussi appris que on peut le faire de façon fun et de kiffer sa vie tout en étant sérieux, parce qu'on était un peu obligé de le faire.
T'étais toujours déconneur déjà à l'époque aussi.
Ouais.
Ou tu l'as, t'as appris, enfin.
Non, c'est la vie.
Devenu sur le fond ou?
Non, c'est la vie. Je vais faire les clichés de la cité, mais tu descends sur le banc, tu passes tes journées à te vanner, à te clasher, à rigoler. Mmh. Et en fait, on a que ça à foutre toute la journée. Donc, on est 10, 20, 30, 40 assis sur un banc à raconter n'importe quoi. Et ben, c'est celui qui aura la meilleure répartie, celui qui sera le plus drôle, celui qui sera le plus sympa, celui qui, voilà. Donc,
Et toi, t'étais le plus drôle ou le plus sympa?
Moi, on m'appelait Hugues les bons tuyaux. Je sais pas si tu connais, t'as la ref avec Starsky Hutch.
Je vois très bien.
J'étais le mec qui pouvait trouver toutes les choses, ainsi de suite. Donc, j'étais pas le plus drôle, pas le plus rigolo, mais j'étais peut-être le plus malin dans tout ça. Et ouais, voilà, moi, c'est un truc qui me fait rire, c'est qu'on m'appelait Guy Lémontuio, parce que on venait me voir pour me dire, t'as pas ci, t'as pas ça. Et ce côté un peu décalé. Non, il y a des gens, dans les cités, t'as des gens très, très drôles. Mm. Très, 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 très drôles. De toute façon, c'est un sport national, t'es assis sur le banc, et c'est voilà, t'as que ça. Et ensuite, t'en as besoin, parce que quand tu commences à réussir ta vie ou à changer, bah, t'arrives dans des endroits où t'as pas les codes. Et moi, j'avais pas les codes des endroits où je me suis mis à travailler. Et ben, quand t'as pas les codes, faut bien que tu compenses. Et tu compenses avec un peu d'humour, avec un truc un peu décalé, en faisant semblant que t'as fait exprès alors que t'as pas fait exprès. Ouais. Voilà, toutes ces choses-là qui, t'es obligé de t'adapter.
C'est vrai que l'humour, c'est assez, un assez bon atout, je trouve, qui peut être utilisable dans tous les pans de vie. Tu vois, tu te trouves en soirée privée pour une certaine banque. Moi, ça m'arrive pareil, tu vois, j'ai pas non plus les codes, j'ai pas grandi avec cette habitude des grands dîners mondains, etc. Et j'en fais de plus en plus, forcément. Et c'est vrai que ça me dérange pas de déconner, de faire quelques blagues avec des présidents, des directeurs.
Et ça leur plaît.
Parce qu'en fait, c'est des humains aussi,
faire.
Tu vois.
Et c'est pour ça que je te dis, c'est une carapace, en fait, l'humour et la façon de se faire. C'est, ben merde, j'ai pas ces codes, mais moi, j'en ai d'autres. Et les mecs, c'est ça qu'ils ont envie d'entendre. Et le truc qui était rigolo, c'est quand t'arrives à la fac et tu rencontres des gens un peu différents, ben toi, tu les envies pour leur éducation, et eux, ils t'envient pour ta liberté.
Pour ta liberté, exactement.
Voilà. Et ça, c'est... Et en fait, moi, il m'a fallu plein d'années pour comprendre ça au départ. Tu trouves ça injuste, tu dis, mais pourquoi eux, pourquoi pas moi, ainsi de suite. Mais en fait, les deux envient l'un et l'autre, et finalement, ben, les deux peuvent apporter pas mal à tout ça.
Mais ça, c'est très dur, tu vois, et je pense que tu as raison, c'est des questions d'années, d'expérience. Moi, je m'en veux beaucoup, mais alors que c'est totalement bête de me dire, putain, j'ai jamais eu autant de moyens que j'aurais aimé. Et tu vois, moi, j'essaie de me battre comme un chien à côté, et donc forcément, moi, j'envie ça, et peut-être eux vont envier la créativité que je vais essayer d'emmener pour essayer d'atteindre les objectifs, donc je comprends ce que tu veux dire.
C'est le plus important. Et en fait, moi, je dis toujours, j'ai jamais été envieux. J'ai envie, mais je suis pas envieux. Et ça, c'est très important. Je pense que si t'es envieux, ça peut pas marcher. Et en fait, d'avoir envie, par contre, si t'as pas envie, tu t'en sortiras jamais, en fait. Le but, c'est d'avoir envie t'as envie de tout défoncer, t'as envie que ça marche, t'as envie d'être le meilleur, t'as envie d'être le premier. Ça, c'est de l'envie, mais faut pas être envieux. Faut pas parce que, ah, il habite dans le 16, il a de l'argent, ah, c'est dégueulasse. Non. il les a pas volés, il les a gagnés, il a travaillé, à toi de te battre pour arriver au même moment. Et je trouve qu'il y a trop d'envieux et pas assez de gens qui ont envie. Donc ça, c'est un problème.
Très bien. Ça pourrait être une belle phrase de livre, tu vois.
Ah, ça.
Trop d'envieux,
pas assez d'envie. J'écris pas avec deux culs, donc je prendrai quelqu'un d'autre pour écrire le livre.
Oui, on enregistre. Les études, justement, t'as commencé à en parler. Comment ça s'est passé? Quel choix d'études t'as fait à l'époque? Est-ce que t'as vraiment choisi?
Non. Les études, c'est important, et dans le cheminement de ma vie et de ce que je suis devenu, en fait, quand t'habites en Seine-Saint-Denis, t'as pas toute la connaissance des études futures que tu vas avoir, et t'es pas dans le... En fait, tu sais pas, moi, je vais caricaturer, mais c'est vraiment ça. T'étais une fille dans mon collège, t'allais faire vendeuse, si t'es un garçon, t'allais faire mécanicien. Il y avait pas d'échappatoire autre que ça. Et quelques-uns allaient en seconde générale, c'était un gros mot. Mm-hmm. Tu vois, c'était vraiment pas beaucoup.
Les grosses têtes, entre guillemets. Ouais.
On n'avait pas CIDJ, des gens qui viennent te parler pendant 3 heures. On connaissait pas ça. Moi, j'ai un truc qui m'a choqué quand j'ai commencé à travailler. J'habitais le 10e arrondissement à un moment avec mes enfants jeunes. Et mon fils avait un copain, on était en maternelle. En maternelle, le gamin, il disait « je veux faire le grand ». Mais moi... quand j'étais petit, mais je savais même pas ce que ça voulait dire. Ouais. Et comment tu peux te dire qu'en maternelle, t'as envie de faire le grand?
T'es l'école,
Et en fait, c'est conditionné. Les gens sont conditionnés à tout ça. Là, on n'était pas conditionné à faire des études. T'es déjà conditionné à bouffer. T'es déjà conditionné à t'en sortir, à vivre. En fait, ouais. Mais le futur, tu le vois pas. Donc, en fait, tu vas à l'école, tu passes ta best life, tes meilleurs moments, t'as tes meilleurs amis, t'as tes copains, t'as les premières meufs, t'as tout ce qui va, tu kiffes. Mais tu penses pas au futur, par exemple.
C'est quoi, c'est vivre au jour le jour, en fait, plutôt?
C'est pas vivre le jour, c'est que tu sais pas, en fait. Moi, par exemple, l'armée, pour un de mes copains qui faisait l'armée, ils avaient des chars avec des brosses à dents pour le 14 juillet, ils étaient en Allemagne, ils galéraient. Donc moi, je me suis fait réformer de l'armée, je voulais pas la faire. J'ai fait un dossier, je voulais tout P4, j'étais associé, je voulais pas faire l'armée.
C'est bien, parce que là, s'ils te retrouvent, tu vas faire
l'armée. Ils vont me retrouver, ils m'ont déjà retrouvé depuis longtemps, t'inquiète pas pour eux. Mais ce que je veux dire, on voulait pas faire l'armée, c'était vraiment un truc. Et quand je suis arrivé dans le monde des études, bah, tous mes copains, ils avaient fait l'armée, mais c'était pas l'armée que moi j'ai connue dans ma cité. L'armée, c'était CSNE à Boston, CSNE à New York, dans des grandes entreprises. En fait, j'ai regretté de pas avoir fait, si j'avais su. Et ça, je connaissais personne. CSNE, je savais pas ce que ça voulait dire.
C'est sur quoi, CSNE?
C'est un contrat national de, je sais pas ce que ça veut dire, mais en fait, c'est les grandes entreprises françaises.
Okay.
Ils prennent des stagiaires de l'armée. Au lieu de faire ton armée de 12 mois à l'armée, tu la faisais comme comptable chez Total, mais au Liban.
Excellent.
Ou à Boston, ou autre truc. Et en fait, c'était tous des postes de fous, dans des entreprises de fous, et c'était ton armée. Et donc, tous les gens qui connaissaient ça, ils le faisaient. Mais moi, je savais même pas que ça existait. Et donc, en fait, nous, on faisait tout pour pas faire l'armée, parce que je voulais pas me retrouver en Allemagne et perdre un an de ma vie. Donc, tu commences à faire tes études. Ça commence à bien marcher. Toi, tu te prends pour un tueur parce que tu dis, putain, je suis super fort. Mais t'es fort en Seine-Saint-Denis. Après, je rentre pas dans les débats, mais je pense qu'il y a deux niveaux vraiment d'études. J'arrive en maths sup, et là,
C'est quoi, tu fais maths sup, c'est ça? C'est ton choix?
Moi, je fais maths sup.
Et pourquoi tu fais ça?
Parce qu'en fait, je voulais faire médecine. Et les profs ont dit, non, mais t'es bon en maths, machin, fais maths sup. Donc, je me dis, pourquoi pas, je vais faire maths sup. Je voulais faire dentiste au départ. Donc, je me mets en maths sup. Et moi, je pensais que j'étais un cador. Je suis arrivé à Paris en maths sup et je me suis rendu compte qu'il y avait un fossé et un gouffre qui était
bien plus fort que toi.
Mais les gens ne se rendent pas compte, en fait. Nous, on était super contents si on avait réussi à faire à 3/4 du programme. Et on était les rois du monde. À Paris, les écoles, ils ont fait le programme de terminale plus la moitié du programme de prépa en terminale scientifique, parce qu'ils sont déjà préparés à la maths sup. Donc toi, t'arrives là, j'étais le seul enfant boursier de mon truc, je me dis, ah ouais, c'est un peu chaud. J'ai eu la présence d'esprit de me dire, j'ai pas le niveau. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai fait la première année, ça s'est bien passé, j'aurais pu passer en maths sp, mais je me suis trouvé très moyen, j'avais pas le niveau, et je me suis toujours dit, Ralph, qu'est-ce que je préfère être? Le meilleur à la fac ou un moyen en prépa. J'avais pas du tout les capacités pour intégrer une énorme école. J'aurais pas pu faire polytechnique, j'aurais pas pu faire centrale et autres. Donc j'aurais fait une petite NCI, je dénigre pas, mais j'aurais fait une NCI normale. J'aurais été ingénieur de base et j'aurais une vie un peu monotone, je pense, avec tout ça. Et donc j'ai basculé, je suis parti à la fac. Et là, autre choc, parce que quand on m'a dessus, les gens que tu rencontres, je vivais en cité universitaire glauque, je travaillais toute la journée, et puis en fait, moi, j'ai quitté chez moi, j'avais après le bac, donc j'ai dû me payer mes études, mon loyer, donc je faisais maths sup, je travaillais en même temps.
T'avais un petit job à côté de ça?
J'ai toujours eu plein de jobs, moi.
Les bons tuyaux encore. Toujours les bons tuyaux.
Plutôt, il faut rentrer l'oseille. Hein. Ouais. Il va pas rentrer tout seul, donc tu dois aller le chercher. Donc, je faisais démonstrateur en magasin, j'étais éducateur spécialisé, je m'occupais d'enfants, je donnais des cours de maths, je faisais plein de choses. Et j'avais un contrat à la mairie de Paris en tant qu'animateur, éducateur, que j'ai eu gardé pendant très longtemps. Et je faisais centre aéré, cantine et autres. Mais tu dois aller à l'école, tu vas faire un maths sup. J'étais le seul à travailler, en fait. Les gens,
C'était facile pour à côté. Donc, toi, c'était encore plus dur parce que tu devais bosser et en plus, tu avais un job à côté. Donc, finalement.
Donc, je me suis rendu compte que ça allait pas être possible. Vraiment, je me suis rendu compte que ça allait pas être possible. Je suis parti à la fac et là, deuxième choc, j'ai rencontré des gens de la banlieue ouest. et là, la belle vie, que des gens beaux, que des gens sympas, que des gens qui n'ont pas de problème à la maison, que des gens qui ont... Et là, c'est pareil. Là, j'avais vécu ma best life et je me suis retrouvé à Maison Lafitte, réveillé par des chevaux dans le jardin, dans le salon d'un de mes potes où je me réveille un matin, c'est les chevaux qui viennent me réveiller. C'était des choses, c'était pas un rodéo de moto en bas de chez moi, c'était des chevaux. Et je me suis dit, waouh!
Ça existe aussi.
J'ai trouvé ça génial. On y prend vite goût. Bon, je sortais tous les soirs. On était très populaire. On faisait beaucoup de choses ainsi de suite. Mais par contre, deux semaines avant les examens, c'est comme toi. T'as pas voulu les chocolatines parce que
c'est ton truc.
Moi, deux semaines avant les examens, faut pas me parler. On va à la bibliothèque. On va travailler. On a les bonnes notes qu'il faut. On peut déconner, mais à un moment, faut que ça s'arrête. Faut travailler.
Mais c'est important cette mentalité. C'est savoir se mettre au boulot quand il faut.
C'est vraiment le plus dur de tout. Ouais. Et moi, je voyais la moitié de mes potes, ils arrivaient pas. Ah, viens, on sort. Non, mais t'as pas compris. Non, mais on s'en fout. Non.
Ouais, c'est pas grave.
On s'en fout pas. Toi, tu t'en fous peut-être parce que ça sera pas grave. Mais moi, je joue ma life, là. Donc, il faut que j'aie mes examens. Donc, ouais, c'était un choc. Mais voilà. Cette différence de niveau, entre les régions, elle est quand même assez forte.
On se rend compte que tu sais quand même d'où tu viens, dans tout ce que tu racontes. Tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas, tu sais d'où tu viens. Je crois que c'était, Mokobé qui dans une chanson. Si tu sais pas où tu vas, regarde où tu viens.
Moi, je sais d'où je viens vraiment, et je viens d'un endroit fabuleux avec une famille fabuleuse. Ça, je sais d'où je viens, mais je sais aussi ce que j'ai dû souffrir pour le faire, et je sais surtout ce que je veux pas que mes enfants aient.
Ça, c'est important.
Ça, c'est très important. Et tout le monde me dit non, mais c'est bien de leur apprendre. C'est dire non. Moi, j'ai pas envie de leur apprendre la galère. S'ils peuvent ne pas en avoir, pourquoi je veux leur apprendre la galère?
Tu penses ça justement, éviter à tes enfants la galère, c'est quelque chose d'important pour toi?
Ah non, moi je suis le pire des pères du monde de gaga et de pas de galère. C'est-à-dire que quand t'as connu la galère et t'as eu la chance de réussir, moi je suis passé de scène du Maroc en Seine-Saint-Denis, maintenant j'habite place Victor Hugo dans le 16e. C'est quand même un gap un peu. Et mes enfants, ils habitent, c'est des enfants de la place Victor Hugo du 16e, c'est pas des enfants de Seine-Saint-Denis. Donc je les ai amenés dans la maison où je suis né au Maroc, ils m'ont pas cru. Ils croyaient même pas. Tu peux pas être né là. Ils vivent dans le 16e, ils ont tout ce qu'ils veulent. Et les gens me disent, ouais, tu devrais leur apprendre. C'est ça qui t'a forgé. Non, ce qui m'a forgé, c'est parce que j'avais pas le choix. Mais si j'avais eu le choix, je préfère habiter dans le 16e, aller à Janson de Sailly et avoir des parents qui s'occupent de moi toute la journée.
Tu veux les forger différemment? Ce serait une autre manière de les forger?
J'ai même pas envie de les forger. Ils vont se forger tout seuls. Et si on a fait notre taf et on a fait une bonne éducation, ils vont s'auto-forger. Moi, j'ai des enfants fabuleux. Ils ont 19 ans et 14 ans et ils se sont forgés. Ils sont gâtés pourris. Oui, mais ils le montrent pas. Ils sont polis, ils sont honnêtes, ils sont voilà. Et j'étais pas obligé de leur d'être dur avec eux et de dire ah non, je vais t'apprendre la vie. Non, on a de l'oseille, ils en profitent. Ils peuvent avoir ils ont de l'éducation, qu'ils en prennent. Et le truc qui m'a vraiment surpris quand je suis arrivé dans le 16e, c'est que les copains et les copines de mes enfants, je les ai trouvés super sympas, vachement équilibré, et pas du tout le mythe que j'en avais quand j'étais jeune, où les bourgeois, c'est tous des... Voilà, j'étais vraiment... Et je suis content de faire partie de ce monde aujourd'hui, que eux, moi, j'en ferai jamais partie, mais eux en font partie.
Ça y est, ils sont intégrés à 100%. Parlons un peu travail.
Ouais.
T'as eu plusieurs amours avant Achille. Ouais. Un amour qui s'appelle Mister Assure en 2007, je crois.
Ouais.
Et Time One.
Ouais, et Place des Leads, et après Time One, il y en a.
Exactement.
Il y a eu Empruntiste tout au début, qui était une boîte, un comparateur de crédit d'assurance. Après Mister Assure, après Place des Leads, après Time One,
Justement, cette fois-ci, j'irai pas en détail dans toutes ces boîtes, parce que sinon, on est parti pour 3 heures d'interview. Mais est-ce qu'un vrai entrepreneur, il est obligé d'avoir plusieurs amours?
Déjà, qu'est-ce qu'un vrai entrepreneur? Est-ce qu'on n'est pas un entrepreneur par dépit? Moi, je suis devenu entrepreneur parce que j'étais trop con pour être salarié. Et je le pense. C'est-à-dire que j'étais jamais d'accord avec mes patrons et autres. Et à la fin, on m'a dit, bah, si t'es pas d'accord, fais-le.
Deviens ton patron. Ouais.
Voilà, donc je l'ai fait. C'est mon grand frère qui m'a dit, Ralph, t'es toujours en train de te plaindre. Donc maintenant, fais-le toi. Je l'ai fait. Et je suis devenu mon patron. Et moi, je suis entrepreneur parce que j'avais pas le choix, par dépit. Et puis, quant à la notion de travail, ben, en fait, c'est pas plusieurs amours. À partir du moment que t'es rentré dans une aventure, ben, t'y vas, quoi. Tu te poses pas de questions.
Pour toi, c'est une question de dynamique de vie, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas l'entrepreneur d'une seule boîte, on est entrepreneur de manière générale.
À un moment T, je suis l'entrepreneur d'une seule boîte. Mais une fois que la boîte, elle est plus là, il y a T plus 1, t'es l'entrepreneur d'une autre boîte. Et on n'a pas qu'une vie, on a plein de vies, et justement, il faut la croquer à pleines dents et faire tout ce qu'on veut faire. Donc oui, je les ai aimées toutes de la même façon, tout autant. Elles sont toutes différentes, et à partir du moment où t'es dans la boîte, bah, c'est ta vie, jusqu'à temps que ça soit la prochaine.
Et t'as réussi à partir à chaque fois au bon moment, selon toi?
Moi, je pense que oui.
Non, mais c'est une très très bonne question, parce que plein de gens se disent...
Tu sais, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, et partir, c'est quand t'as décidé de partir. Est-ce que c'est bon? C'est jamais bon. C'est comme des mecs qui disent, moi, j'achète pas l'iPhone 14 parce que le 15, il sort dans 3 mois, et le 16, il sort dans 8 mois. Ben, il dit, écoute, t'achètes jamais de téléphone si t'attends d'avoir le dernier qui marche bien. Donc, est-ce que j'aurais pu gagner plus d'argent en vendant mes boîtes plus tard? Oui.
Forcément.
Est-ce que j'aurais pu en perdre? Oui. Mais je me pose même pas la question, en fait. À partir du moment où j'ai pris la décision, elle est prise et c'est terminé. Donc, moi, je pense, à partir du moment où j'ai décidé de partir, je suis parti au bon moment. Et je remets jamais en cause mes décisions. J'ai décidé de partir et je regarde jamais en arrière.
Pas de remords, pas de regrets.
Exactement. Et je regarde jamais. Tu t'achètes un truc, tu te dis pas, est-ce que j'aurais pu l'avoir machin, tu l'as acheté, c'est terminé. T'as vendu, c'est terminé. T'es parti, c'est terminé.
Ouais, donc tu ramènes jamais un vêtement au magasin?
Jamais. Déjà, je porte que du Achille.
C'est une mentalité aussi.
Mais je rapporte jamais un vêtement au magasin.
Porte que du Achille, ben, ça tombe bien.
Ouais.
Mettons les pieds dans le plat directement.
Ouais.
Alors, t'es né le 2 avril, il me semble.
Oui.
Et le 2 avril 1978, il y a une série qui s'est lancée qui s'appelle Dallas.
Oui, je connais bien.
C'est le lancement de Dallas aux États-Unis.
Oui. Voilà,
donc, petite transition, évidemment. Est-ce que le monde de l'assurance, c'est un monde du Far West?
C'est compliqué, le monde de l'assurance. Et je dirais pas que c'est un monde du Far West. C'est un monde qui est vraiment fabuleux. Dallas, ça faisait rêver tout le monde, Dallas. Mm-hmm. T'as envie de faire partie de cette famille. Après, il y a des tarés dans la famille. C'est clair, il y a des alcooliques, il y a des vicieux, il y a des gentils, il y a Sue Ellen qui picole tout le temps, il y a tous ces gens-là. Ça me fait bizarre de reparler de Dallas, parce que c'était le truc qu'on regardait en famille le dimanche. L'assurance, c'est un métier qui est vraiment formidable. Mmh. Vraiment. Tu peux faire de la finance, du sinistre, 10 millions de choses, de la compta, tu peux tout faire. Donc c'est vraiment comme tous ces métiers un peu réglementés et autres, bah, c'est des précarés de gens qui ont mis du temps à y arriver et qui n'ont pas tellement envie que tu arrives à leur place plus vite que ceux qui ont... Eux, ils ont mis 20 ans à arriver à leur place, ils n'ont pas envie que tu y arrives en 2 ans.
Ce que je disais, il y a
avoir envie et les envieux, c'est des choses auxquelles il faut attention.
Et justement, avec Achille, en fait, vous, l'objectif, c'est quoi? C'est dépoussiérer le monde de l'assurance, dépoussiérer ce monde vieillot, ce secteur vieillot et concurrentiel?
Eh bien, c'était pas ça. J'utiliserai pas les mots de dépoussiérer, vieillot et ainsi de suite. C'est la rencontre avec Francky, on en parlera peut-être tout à l'heure de comment ça s'est fait, mais c'était vraiment de se dire.
On peut en parler maintenant si tu veux.
On peut en parler maintenant. Ouais. Donc ça va expliquer un peu d'où ça vient. Donc moi je viens du monde de l'assurance.
Ouais.
Mon papa était dans l'assurance, mon frère dans l'assurance. Moi quand je suis sorti de l'école, j'ai fait de l'assurance. Donc je suis rentré dans l'assurance. Après j'ai quitté pendant quelques temps. Et Francky ne travaillait pas du tout dans l'assurance et il a cherché un modèle. Il s'est dit, bah, tiens, quel est le modèle qui marche bien, où il y a de l'argent, où on peut déstructurer, ainsi de suite. Et il a choisi l'assurance. Donc en fait, il y a des gens qui viennent dans l'assurance parce qu'ils disent, tiens, c'est un milieu qu'on va pouvoir bouger.
Attends, je te remets un peu le micro.
C'est un milieu qu'on va pouvoir bouger. Moi, je viens dans l'assurance, c'est un milieu que je maîtrisais bien. Donc
ouais,
du coup, cette association que je connaissais depuis toujours, donc je n'ai pas choisi l'assurance pour le dépoussiérage, c'est simplement parce que je le maîtrisais bien. Et je me dis, je pense que je peux amener quelque chose dans ce modèle-là. Et en fait, j'avais aussi, par rapport à mon papa, qui est décédé du Covid en mai 2020, qui a travaillé toute sa vie dans l'assurance et qui avait un poste de merde toute sa vie, salarié de base et autres, j'ai envie de le rendre fier. Et je me suis dit, j'en avais marre qu'on me dise, les assureurs, c'est des voleurs, c'est machin truc, alors que je ne pense pas. Je ne pense pas vraiment, intrinsèquement, je ne pense pas. Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'ils font des choses de... Est-ce qu'ils dépensent trop d'argent pour faire des choses qu'ils ne devraient pas? Est-ce que les primes sont trop chères? Est-ce qu'il y a trop d'intermédiaires? Oui. Mais est-ce que les gens sont des voleurs? Je ne pense pas.
Ouais.
Loin de là. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait. Il y a du taf.
Donc c'est quoi le souhait d'Achille à la base, finalement?
Le souhait d'Achille, c'était rapporter le pouvoir d'achat aux gens. Vraiment. C'est changer la mentalité sur l'assurance. C'est d'apporter de la tech, du savoir-faire et montrer aux gens que, ben, en fait, ce n'est pas aussi compliqué que ce qu'ils disent. Et qu'on peut vraiment le simplifier, qu'on peut vraiment y aller. Et c'est ce qu'on essaye de faire, et ce qu'on a réussi à faire. On a 500 000 clients en 2 ans et demi, c'est du jamais vu. Et
500% de croissance, je crois, j'ai vu.
Ouais,
je sais.
Ouais. C'est énorme ce qu'on fait, et les gens, ben, ils adhèrent à notre façon de faire. Et c'est les gens de 2024, hein, c'est plus les mêmes qu'il y a 30 ans.
Et justement, pourquoi vous fonctionnez? Pourquoi ça fonctionne, Achille? Tu le sais évidemment pourquoi, mais...
Mais ça fonctionne parce qu'on a envie que ça marche. parce qu'on n'est pas arrivé en se disant tiens je vais aller là-dedans parce qu'il y a du fric à se faire ou parce qu'on comprend pas ou c'est tous des nuls. T'arrives pas dans un milieu en te disant bon alors vous les vieux là vous êtes tous des tocards, moi je vais arriver, je vais dépoussiérer, je vais tout défoncer, je suis meilleur. Ouais. Non, on a à apprendre de tout le monde. Déjà moi je suis un vieux donc ça aide.
T'es déjà le fossile.
Je suis déjà le fossile, je suis déjà le vieillard, je suis déjà le veillard du coin. Mais ouais, donc qu'est-ce qu'on veut faire? On se dit bah tiens, si des AXA, si des Allianz et des généralistes sont là depuis longtemps, c'est pas des lapins de 6 semaines. Hein.
Ouais, ouais.
Ils sont très bons. Toi, t'arrives, tu veux pas arriver et mettre par terre en 3 minutes. T'as à apprendre de chez eux, ils ont à apprendre de chez toi, et si tout le monde s'écoute, moi, on va pouvoir faire quelque chose. Donc, nous, on est arrivé de façon humble, mais pas très humble, parce que faut montrer un peu les...
Faut montrer qu'on existe.
Faut montrer qu'on existe. Donc, des fois, faut faire semblant, faut pas se prendre au sérieux, faire tout ça, mais la vraie raison, c'est qu'on est des nains. Dans un milieu où il y a des gens très forts, et à toi de trouver ta place et de te la faire, et on ne va pas te la donner. Ce n'est pas un milieu où on va te donner ta place, ça c'est certain. C'est à toi d'aller la prendre et de te battre et de tout faire pour que ça marche.
Est-ce que l'humilité, c'est peut-être ce qu'il a pu manquer à certains des concurrents ou anciens concurrents? Tu vois, on a vu Luco qui a fait une très belle avancée en quelques années, qui là va se faire racheter, donc je crois que c'est...
Le
terme redressement judiciaire, voilà. Est-ce que peut-être qu'ils ont manqué d'humilité à l'époque? Enfin, qu'est-ce que tu penses de ce sujet,
On peut en parler parce qu'on nous en parle souvent. Ouais, donc, ouais.
C'est plus un secret de toute façon maintenant non plus.
C'est pas un secret et ce que je dis aujourd'hui, je le disais déjà quand ça allait bien. Donc, j'ai pas retourné ma veste par rapport à ça. Tu peux pas arriver dans un milieu quand tu viens pas de ce milieu-là et de dire vous êtes tous morts sans moi. Ça peut pas marcher. Surtout dans des gens. Qui pensent qu'ils ont le savoir et qu'ils ont du pouvoir et qu'ils sont plus forts que toi. Donc, même si tu as raison, tu ne peux pas le dire. Il faut le faire autrement. Après, le cas de Luco, je pense que ce n'est pas 100% de leur faute. Quand je dis leur faute, je parle des dirigeants.
Ouais.
Ils sont arrivés à une période où l'argent était cadeau, l'argent était facile, l'argent était à zéro, où les fonds leur ont donné de l'argent, leur ont dit faut cramer, faut dépenser. Et ils les ont presque obligés à dire faut y aller.
D'accord.
Les mecs, ils ont été.
Sans se contrôler,
ils n'auraient pas dû. Donc, oui, si t'arrives en redressement, c'est qu'il y a un problème. Mais ce n'est pas 100% de ta faute. Après, quand tu connais bien le milieu de l'assurance, l'assurance habitation, c'est l'un des produits qui rapporte le moins d'argent et qui est le plus compliqué en termes de rentabilité. Donc, ne faire que ça, c'est aussi...
Et qui, pour autant, est le plus connu, quasiment.
Oui, c'est un produit qui est l'obligation d'avoir, mais tu as beaucoup de sinistres, tu as beaucoup de dégâts des eaux, tu as beaucoup d'incendies, tu as beaucoup de tout ça. Les primes ne sont pas grosses, sont pas élevées. Et donc, si tu ne fais pas du cross-sell et tu ne vends pas d'autres produits avec, tu vas avoir un problème. Et comme ils étaient monoproduits, ça devenait un peu compliqué. Et puis des achats de sociétés externes, d'aller à l'étranger tout de suite, ainsi de suite, c'est des choses que j'aurais pas fait.
Et vous, justement, vous vendez plusieurs produits, donc vous faites un peu de B2C, du B2B aussi.
Oui.
Pour toi, c'est important de faire les deux, et est-ce qu'on communique pareil en B2C qu'en B2B?
On communique pas pareil. Moi, tous mes côtés décalés que tu vois, tous mes pas sur LinkedIn, ainsi de suite, c'est du B2B. Le mec du B2C, il en a rien à foutre de ça. En B2B, c'est la communication un peu institutionnelle, un peu on montre qu'on est là et voilà ce qu'on fait. Et en B2C, ben, faut que tu parles de ton produit. Et en fait, nous, notre communication en B2C, on a un produit qui est tellement bon que c'est les gens qui parlent d'eux-mêmes. On a 30 et quelques pourcents, on a 34% des gens qui souscrivent chez Achille en direct.
Ouais.
On a fait zéro pub télé, on a fait. Et les gens commencent, une marque qui commence à leur plaire. Ah bah tiens, c'est pas cher, j'ai eu une assurance habitation sur Achille, c'est pas cher, tiens, on va aller voir. Maintenant, c'est
quoi, c'est du bouche à oreille surtout?
C'est beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de... On a le meilleur produit aujourd'hui en habitation, c'est certain. Il est pas cher, il couvre bien et des biens
garantis.
Pourquoi
je suis pas chez vous alors?
Ben viens, avec plaisir. Je te donnerai un code promo, mais je vais pas le dire à l'antenne, sinon tu vas nous ruiner.
Le nom Achille, on n'a pas parlé. Est-ce que c'est obligatoire quand on a une boîte de faire un nom avec un A?
Alors, c'est Francky qui avait trouvé le nom d'Achille avant même qu'on se rencontre.
Ouais.
Donc, c'est lui qui a tout le mérite de ce nom. Je pense que c'est obligatoire d'avoir un nom qui a un A. C'est tellement obligatoire que toutes les boîtes que j'ai eues n'avaient pas de A. Donc, c'est qu'il était plus malin que moi déjà à l'époque.
Ouais.
Aujourd'hui, ça nous aide pas mal que ce soit un A. On est toujours en premier dans tout ce qui se passe. Voilà, c'est un nom qui... Les gens aiment beaucoup le nom d'Achille. Donc, c'est un nom qui pète, même la typo, qui a du sens, donc ça se passe bien.
Mais c'est marrant parce que là, je pensais à deux, trois assureurs, ils ont tous des A. Mais sauf qu'ils n'ont pas le C en deuxième lettre, donc forcément, vous êtes au-dessus dans l'alphabet.
Ouais, si on avait pu s'appeler A Achille, on l'aurait fait, mais c'était...
Achille,
ça sera la prochaine.
Achille, je crois qu'il y avait une histoire aussi avec... Iliade, l'Odyssée.
Oui, en fait, c'est ça. C'est Francky. Donc, je peux raconter maintenant notre rencontre avec Francky.
T'es chez toi ici. Tu racontes ce que tu veux, quand tu veux, à quel moment tu veux.
C'est toi qui... Donc, c'est pas dans le bon ordre. Donc, c'est pour ça que je suis embêté pour toi, pour ton montage futur. La rencontre de comment est né Achille et la rencontre avec Francky. Donc, moi, c'est ma cinquième boîte. J'ai vendu une boîte tous les 3 ans depuis 15 ans.
C'était l'an dernier que tu aurais dû la vendre, Achille, du coup.
Et c'est pour ça qu'on n'a pas encore fini. Messieurs, envoyez vos offres, je vais la regarder. Voilà, donc oui, ça sera la première fois. Il reste très peu de temps pour que je casse pas mon cycle. Donc j'ai vendu tous les 3 ans, j'ai vendu une boîte.
Okay.
Et j'avais arrêté de travailler en 2017. Et en 2020, j'ai un copain à moi qui m'appelle. Et qui me dit, Ralph, fait longtemps que t'es pas sorti de chez toi.
Jean, c'est...
Non, non, un autre. Après, Jean arrive après dans l'équation. C'est Alexandre qui m'appelle et qui me dit, voilà, il y a la soirée Les Furets ce soir, qui est un comparateur d'assurance. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Lui, il est de province. Il me dit, ça me ferait plaisir de te voir. Viens à la soirée, comme ça, on se voit. Je dis, écoute, ça fait 10 ans que je suis plus dans l'assurance. Je connais personne, ça sert à rien. Il me dit, non, mais viens, c'est juste pour me voir. J'arrive à la soirée. Je connaissais tout le monde. Mais... Ça faisait 10 ans que j'étais parti.
Et ça n'a pas bougé?
Rien. Les mêmes blagues, les mêmes mecs, les mêmes partenariats, les mêmes problèmes techniques. Mais un truc de fou. Et moi, j'avais l'impression d'avoir eu 20 vies entre-temps. J'avais eu des bureaux à Singapour, des bureaux... On voyageait tout le temps. On était dans le marketing digital avec la tech qui évoluait toutes les minutes. Ouais. Et je vois les mecs, ils me parlaient de... Pour eux, API, c'était un gros mot. Le mec, il dit, ouais, peut-être que dans 3 ans, j'aurai une API. T'as envie de lui dire, mais... Gars, c'est...
Dès maintenant
on peut pas vivre sans API, on peut pas... Et je me suis dit, tiens, si je refais un truc, je le fais en assurance, parce que là, ils sont trop en retard. Et on en arrive à Jean-Laurent Brochard, et quelqu'un que j'ai rencontré il y a très longtemps, il était stagiaire dans sa première boîte, il s'était occupé de mon dossier Mister Assure. Et on avait travaillé ensemble sur la vente de ma boîte, et c'était avec Jean, et on s'était super bien entendu. C'est un mec formidable, très intelligent et très humain et très sympa.
Qui aujourd'hui est investisseur.
Et donc, Jean de La Roche-Brochard, qui est le patron de Kimaventure, à l'époque, il n'était pas le patron de Kimaventure. S'occuper de mon dossier, on suit, et puis, il habitait dans le quartier où je vis aujourd'hui, et il allait au lycée Jean Sanseil. Il aime le dire qu'il n'était pas très bon élève, et donc il en a un peu souffert de ça, j'ai l'impression. Et au lycée Jean Sanseil, en face, il y a une librairie qui s'appelle Lamartine, et t'es la star du monde si tu vas à Lamartine. Et lui, il dédicaçait son livre à Lamartine.
Ah, d'accord.
Et je me suis dit que ça lui ferait plaisir, sachant l'attachement de Janson, Lamartine et autres. Je vais aller le voir à Lamartine et je vais aller lui prendre son livre et je vais dédicacer.
Sympa.
Donc j'y suis allé dédicacer son livre, il me voit, super Ralph, viens on mange ensemble lundi. Je mange avec lui, donc je vais à Station F, je mange avec lui, il me dit Ralph, c'est dommage, quelqu'un comme toi, pourquoi tu refais pas? Je dis écoute, si je fais quelque chose, je fais de l'assurance. Il me dit, bah, écoute, je te suis. Je me dis, Jean, il suit 3000 personnes par an. Il a dit, je te suis, comme il m'aurait dit, est-ce que tu veux un dessert à la fin de ta pizza?
Et t'as pris un dessert après la pizza?
Je l'ai pas pris.
Ouais.
T'as vu le corps de rêve que j'ai? Tu vois bien que j'ai pas pris de dessert. Ça se passe super bien. Je lui dis ce que j'aimerais faire. Et puis 2 jours plus tard, il me rappelle, il me dit, ah, j'ai réfléchi à ton truc et tout. Il dit, putain, Jean qui me relance. Donc je dis, oui, très bien. Et puis il me rappelle le vendredi, il me dit, écoute, Ralph, j'ai un mec qui travaille avec Xavier dans mon bureau. Xavier me l'a envoyé, il s'appelle Francky. Il vient de me pitcher un truc sur l'assurance, exactement ce que tu viens de me dire il y a 3 jours.
Incroyable.
Est-ce que tu veux bien le voir? De toute façon, Xavier le finance, quoi qu'il se passe. Mais est-ce que tu veux le voir? Parce que je lui ai dit de ne pas se lancer dans l'assurance sans devoir. Vois-le. Je lui ai dit, écoute, moi je suis à la maison, je glande toute la journée, viens. Francky est venu. On s'est assis, on a mangé 3 nems et une salade du chinois du coin. On a parlé, une demi-heure après, on s'associait. Et par contre, je lui ai dit, par contre, il devait lever 5 millions. Je lui ai dit, par contre, Francky, 5 millions pour une compagnie d'assurance, ça ne va pas être possible. Et il faut beaucoup plus que ça. Et du coup, c'est passé de 5 à 30. Et donc, on est retourné voir Xavier pour lui dire, écoute, on va le faire, mais ça sera pas 5
millions. Est-ce qu'on peut préciser qui est ce Xavier?
Xavier Niel,
ouais,
pardon.
Non, mais c'est sûr, on l'a pas précisé.
Oui, non, je parle comme si c'était mon pote, alors que je le vois très rarement. C'est pas... voilà, donc, Francky travaille avec Xavier Niel depuis longtemps.
Ouais.
Moi, je connais ces gens depuis longtemps. On nous a mis en relation.
Ouais.
Ça s'est fait très, très vite. Du coup, Francky avait déjà l'autorisation de 5 millions pour développer son truc. Moi, j'ai dit, il en faut plus. On en a demandé 30. Et Xavier Niel a dit, OK, 30, mais pas tout seul. Et donc, on a levé des fonds très facilement. Mais donc, ça s'est passé. Je peux pas le raconter. Ça, c'est pas des exemples à donner aux gens. Parce que ça s'est fait en, on n'avait pas de deck, pas de PowerPoint, rien du tout. On a levé 30 millions. On avait pratiquement rien.
Alors, justement, comment on convainc Xavier Niel ou une autre personne de miser sur nous? Tu vois, là, on parle de 30 millions, mais on peut parler d'autres sommes. Comment on convainc une personne si importante de miser sur nous?
Alors, là où je suis un peu malade du truc, c'est qu'on n'a pas eu à convaincre. C'était déjà, en fait, dans la vie, si tu fais les choses comme tu dois les faire et t'es sérieux, ben ça revient vers toi, en fait. Donc moi, j'ai toujours été sérieux dans mon taf et les gens le savaient. Francky a toujours été sérieux avec Xavier Niel et Xavier le savait. On a dit, on va faire un projet. Ils se sont même pas posé la question, en fait. Ils se sont dit, bah, les deux, on les connaît, ils vont y arriver, boum, on y va. Donc, on n'a pas eu à les convaincre.
Bah, ils étaient déjà convaincus, peut-être, par ce que vous étiez tous les deux.
C'est ce que notre histoire les a convaincus. Et ça, c'est la France, en fait. Et je ne dis pas que c'est bien, je pense que c'est même pas bien. Tu as réussi, forcément, tu vas réussir, non? Et donc, en France, un mec qui a déjà réussi, ben, il est bankable et on va lui dire, bah, non, il va le faire et de toute façon, ça va marcher. Et donc, on n'a pas eu, ça a été plus facile de lever 30 millions là que ça m'a été de lever de l'argent sur Mister Assure il y a...
Oui, c'est plus facile de lever 30 millions que 500 balles à l'époque.
Exactement.
Ouais, c'est fou.
Ouais.
Enfin, c'est quand même assez fou. Et tu pensais à l'époque, là, on peut peut-être en parler, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, putain, est-ce qu'on n'a pas vu trop grand? Est-ce qu'on n'a pas vu trop gros?
Non, jamais. Mais ce qu'on s'est dit, c'est que moi, je ne voulais plus travailler. Et donc, à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu te rembarques dans un truc pareil? Mais pas trop grand. Après, t'es grisé par le truc. En fait, t'as créé une compagnie d'assurance. C'est un truc de malade mental quand tu réfléchis. Et ça part presque d'une blague. OK, ben viens, on y va, on le fait. Voilà. Et après, ben, une fois que t'es dedans, c'est ce que je dis, dans toute ma vie, une fois que j'ai commencé, j'ai commencé. Et je regarde pas en arrière et en avance.
La bouffe, je crois qu'il y a une vraie histoire autour de la bouffe pour toi dans toute ta vie professionnelle. C'est quoi cette histoire du kebab? Déjà, tu manges quoi quand tu manges au kebab? Quelle sauce tu prends?
Moi, je prends blanche harissa et je prends kefta kebab. Tu vois, je prends pas du léger.
Ouais.
non, je suis un, ça rend fou tout le monde. Moi, j'aime la bouffe. Mais je suis aussi content de manger un kebab que d'aller dans un 5 étoiles.
Alors, t'arrives à faire les deux.
Et les gens me disent, t'es un malade. Mais moi, je kiffe d'aller manger au kebab. C'est un truc... à chaque fois que je mange, je me dis, qu'est-ce que c'est bon. voilà. Et des fois, je vais dans des restaurants étoilés, je fais plein de choses.
Et qu'est-ce que c'est bon aussi, mais oui.
Et qu'est-ce que c'est bon, mais c'est aussi bon, en fait. C'est bon différemment. Voilà, ça peut paraître fou, on va me lancer des... Mais moi, je prends autant de plaisir à manger un bon kebab qu'à manger dans un bon restaurant. Et je suis... voilà. Et la petite histoire qui est très rigolote par rapport au kebab aussi, c'est que le jour où j'ai reçu le téléphone de la CPR, quand même l'autorité de contrôle prudentiel, qui est l'organe le plus important de notre secteur pour nous dire « vous avez l'agrément ».
C'est
ceux qui te donnent l'agrément, okay, donc c'est la Banque de France, c'est une brigade, ils ont autant de pouvoir que la douane, c'est quelque chose de très très important, très solennel. Quand ils m'ont appelé, j'étais en train de commander un kebab. Et en fait, j'étais en train de parler au maître kebabier qui était en train de faire mon kebab, et il me parlait, il me disait, vous avez l'agrément, là, là, là. Et en fait, je me dis, si elle imagine une minute où je suis là où elle est en train de me dire, elle va pas me le donner, l'agrément, parce que j'étais en train de lui dire salade, tomate, oignon, et elle me dit, vous avez votre agrément, c'est ça, les 35 ans, on n'avait pas donné, c'était, c'est 6 mois de travail, voilà, j'ai trouvé cette situation assez cocasse. Bien sûr, je lui ai pas dit que j'étais en train de commander un kebab, mais c'était assez rigolo.
Cette histoire du kebab me fait assez sourire. Mais c'est aussi ce qu'on fait, voilà, sur Double Dose. Tu vois, on apprend à lever des millions, on apprend à savoir comment on discute avec Xavier Niel et aussi comment on commande un kebab. Là, si comme ça, je te disais, un entrepreneur avec qui tu pourrais manger un kebab, avec qui t'aimerais manger un kebab?
Ah, c'est compliqué. Je te réponds d'un truc, mais j'ai un truc rigolo, c'est que souvent, les entrepreneurs nous envoient leur fils en stage.
Ouais.
Et j'ai reçu le fils d'un entrepreneur à succès. Et le mec, je lui dis, viens, on va manger un kebab. Et il me croyait pas. Et quand on s'assoit pour le prendre et tout, il me dit, mais jamais mon père, il serait venu manger un kebab. Et c'est plutôt, voilà, ça m'a fait plutôt rire. Alors que c'était vraiment, en fait, naturel. Normal, c'était normal. Et maintenant, je peux m'en payer un tout seul. À l'époque, on en prenait un pour quatre sur le banc. Donc, j'ai déjà une promotion.
Et là, je prends le supplément.
Je prends le supplément kefta. Donc, là, j'ai réussi ma vie.
De prendre un supplément kefta, c'est réussir sa vie. Ça ferait un bon sujet de philo, ouais. Tu vois, genre 4 heures.
Je suis pas sûr que ça va leur plaire.
Autour de tout ça, sur le secteur de l'assurance, tu en parlais, ton papa faisait de ouais. L'assurance pendant très longtemps. Comment tu penses qu'il verrait Achille
Bah, je pense qu'il serait... Alors, déjà, il aurait eu 92 ans demain.
D'accord.
Donc, on est une famille, on est tous nés entre le 2 et le 8 avril. Donc, ça fait beaucoup d'anniversaires. Donc, voilà, il est. La première chose que j'ai faite quand j'ai reçu mon agrément, j'ai été le mettre dans un papier plastifié et j'ai été le déposer sous sa tombe. Parce que j'étais fier de mon truc. Donc, je faisais ça pour lui. Je pense qu'il est fier, j'espère, de ce qu'on a fait. En tout cas, il n'y a pas une minute où je ne pense pas à lui quand je fais de l'assurance.
Quand tu es devenu assureur, les premières fois, il était content?
Non, il comprenait pas. Alors, j'ai des anecdotes comme ça où... Moi, j'ai des parents qui ont arrêté l'école en CM1.
Ouais.
Mon père était très éduqué, très, très, très éduqué, très fort, mais ils n'ont pas été à l'école. Et ils n'avaient pas tous les codes, ils ne comprenaient pas tout. Alors, une petite anecdote. Pour ma mère, je n'ai pas été instituteur, j'ai raté ma vie. C'est-à-dire que comme elle vient d'un village où l'instituteur, c'était le roi du monde, si t'es pas instituteur, t'avais pas fait. Donc, pour donner une petite histoire, j'ai vendu ma première boîte, j'ai gagné plusieurs millions d'euros. J'arrive le vendredi soir pour manger dans ma famille, je me dis, je vais leur annoncer, j'étais super fier de moi. Il y a ma mère qui me reçoit, qui, avant même que je parle, me dit, ah, je t'abuse quand même, regarde, Titou, il a réussi sa vie, il conduit les camions poubelles de la mairie de Paris, il est au moins les fonctionnaires.
C'est génial.
Et toi, tu viens de gagner plusieurs millions. Et en fait, le regard de ta mère par rapport au truc, c'est que t'as pas réussi parce que tu conduis pas les camionnettes vertes de la mairie de Paris. Lui, il est fonctionnaire, il est tranquille. Tu vois, c'était cette mentalité-là. Donc, c'était très compliqué de leur faire comprendre ce que je faisais ou ce que je faisais pas. Donc, et à chaque fois que j'allais la voir, ma mère, elle me laissait un billet de 20 euros pour me dire, prends mon fils, prends, tu vas voir, tu vas en avoir besoin. Elle me laissait 20 euros.
Alors que même pas, enfin, alors qu'elle était très loin de tout ça.
Elle comprenait même pas. Elle comprenait pas. Et donc, elle était persuadée. En fait, entrepreneur ou chef d'entreprise, c'est pas un métier, en fait. Donc, pour elle, je travaillais pas. Elle était super inquiète. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, j'aurais eu un contrat de CDI à la mairie de Paris pour conduire les bennes à poubelle. C'est ce qui se passait.
Elle aurait été
plus fière. Parce qu'elle a dit, voilà, lui, au moins, il a réussi. Il a pas de problème. Elle me parlait toujours du comptable qui était au 17e. Elle dit, tu te rends compte, son fils, il est comptable. Je voulais pas dénigrer. J'ai dit, mais maman, tu te rends compte de ce que je fais?
Je suis assureur.
Non, j'étais pas assureur à l'époque. C'était mes boîtes. Donc, ils comprennent pas. Et mon papa a mis beaucoup de temps à comprendre ce que je faisais. Il était toujours inquiet de me dire, mais Raph, t'es sûr que tu veux faire tout ça? Pourquoi tu prends pas un CDI? Pourquoi tu prends pas? Et je leur racontais pas ce que je gagnais, ce que je faisais, tout ça. Donc, ils comprenaient pas. C'était vraiment. Et là, dès que j'ai voulu qu'ils comprennent. Et donc, je suis allé dans le monde de l'assurance. Parce que là, il comprenait, ça lui parlait, mais malheureusement, il a pas pu voir. On a reçu l'agrément en 2021 et décédé en 2020, donc il a pas pu voir. Il a rien vu d'Achille, en fait. Je lui ai dit, tiens, on va le faire, mais on n'a pas pu en parler.
Justement, tu t'en parles quelquefois sur l'un des derniers interviews que tu as fait. Là, le nom m'est parti. Sur un podcast que tu as fait, je retrouverai le nom et je le mettrai. Tu disais, j'ai toujours passé du temps avec ma famille, même quand je travaille est dur. Oui. C'est important, la famille, pour toi?
C'est le plus important de tout. Dans la vie, il y a la santé et la famille. Tu peux réussir tout ce que tu veux, t'as pas la santé ou t'as ta famille, ça va te servir à rien du tout. Moi, ma famille, elle, c'est le plus important de tout, toujours. J'ai jamais raté une sortie scolaire de mes enfants depuis qu'ils sont nés. Jamais. À l'époque où j'étais Taïwan, c'était 160 personnes, on avait 9 pays, je voyageais toute la journée. Ouais. Je faisais 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, je faisais 6 millions d'EBIT. On travaillait comme des chiens. La maîtresse m'a demandé depuis combien de temps j'étais au chômage. Parce qu'en fait, j'étais à toutes les sorties. Toutes les sorties. Et j'ai envie de lui expliquer, mais alors je pouvais pas. Je lui ai dit, écoutez, madame, j'ai envie de lui dire, mais tu sais, quand je viens à cette sortie, ben moi, je me couche à 5h du mat pour rattraper ce que j'ai pas fait. Ou moi, je vous demande en début d'année quel est le planning des sorties. Ouais. Je le mets dans mon agenda et personne au monde viendra me dire, ce jour-là, tu fais autre chose que la sortie avec tes enfants. Le mardi midi, je mangeais avec ma fille tous les mardis midi. Mon agenda, tu pouvais regarder, il n'y avait pas les secrétaires, tout le monde savait, tu ne me prends pas un rendez-vous le mardi midi, c'est moi et ma fille, on va au restaurant, je vais la chercher à l'école, on va au restaurant, on a nos moments avec nous. Il y a un entrepreneur qui dit qu'il n'a pas le temps de faire ça, c'est un mytho. Tu as le temps de faire ça, c'est juste que tu n'as pas envie.
C'est le choix, enfin, c'est qu'on ne choisit pas les bonnes choses peut-être.
Après, bien sûr, ben, je n'ai pas pris rendez-vous entre midi et deux un mardi. Tu ne crois pas que je peux le prendre le jeudi? Je crois pas que je peux le rattraper à 19h, je crois pas que je peux aller... Bien sûr, donc je connaissais tous les copains de mes enfants, ils me connaissaient tous, j'étais le papa accompagnateur de tous les trucs, et voilà. Et alors ma femme est avocate, et les mecs ils pensaient que je vivais à son crochet. Ils disaient, la femme est avocate, elle bosse dur, et lui il est tout le temps là à faire les,
les sorties. Ouais, les sorties
piscinées. Voilà, c'est ça, mais oui, je les faisais, et ça c'était très très important. Et deuxième chose, on part en vacances en famille, tous les 7 semaines, tout le temps.
Et comment justement tu arrives à garder cet équilibre? Parce que tu dis, oui, tu le places sur le calendrier, mais comment tu fais pour faire comprendre aussi aux autres personnes? Et comment est-ce que c'est plus facile à le faire maintenant? Tu vois, est-ce que tu faisais pareil il y a 20 ans?
Ouais, c'est très intelligent ce que tu dis, parce que c'est vrai. En fait, aujourd'hui, ma façon de vivre mon entrepreneuriat n'est pas la même entre la première boîte et la dernière boîte. Mais dès la première boîte, je le faisais quand même.
Ok, donc on peut déjà le faire
largement. Le mec qui te dit, j'ai pas le temps, ben, soit tu sais pas travailler, soit t'en as pas envie. Mais ça veut dire quoi? T'as 2 heures de sortie, tes enfants, t'en as que deux, tu vas en avoir 3. Des sorties de fin d'année, ils en auront qu'une dans leur vie. La sortie de fin de CM1, il n'y en aura qu'une dans sa vie. Ils ont besoin que tu sois là. Et tu ne vas pas les voir grandir et tu vas te dire, merde, c'est ça, je vais me retourner, c'est ça ma vie. Tu peux te dire, pendant 2 heures, je ne viens pas, et ben je rattraperai ce soir et puis c'est tout. Et le monde ne va pas s'écrouler parce que tu n'es pas là.
C'est... Tu sais que c'est hyper difficile parce que ça fait partie des questionnements qu'on est pas mal à voir sur ma génération peut-être, on va dire, où on est à un âge entre deux où tu te poses des questions. Est-ce que tu dis les enfants, pas les enfants? Tu te dis est-ce que je serais capable de? Est-ce que tu prends aussi de tu vois, ton expérience passée en fonction de tes parents, la manière dont tu as grandi? C'est vrai que moi j'en parle très peu, tu vois, je m'exprime très peu sur le podcast pour parler de moi-même, je préfère laisser parler les gens. Mais tu vois,
devrais.
J'ai... De quoi?
Tu devrais en parler?
Ouais, on pourrait, mais sinon ça ferait 3h40 d'épisode. Et tu vois, moi j'ai grandi avec un papa finalement absent pour tout un tas de raisons, parfois le travail et qui n'était pas en plus un travail hyper hype, sûr, hyper haut en plus, tu vois. Et tu te poses la question, tu te dis, est-ce que je serais capable de le faire? C'est vraiment des choses que je me pose régulièrement. Je me dis, est-ce que je serais capable de le faire?
Tu seras capable. Si tu as décidé de l'être, tu le seras. C'est ton choix. Est-ce que tu as envie de rentrer à 20h tous les jours? 20h, c'est tard déjà. Moi, je rentre à 20h tous les jours. Je suis à 20h à table avec ma famille. Quoi qu'il se passe, je serai à 20h à table avec ma famille. Si j'ai un rendez-vous après, je vais y aller après. Je vais travailler jusqu'à minuit. Tu vas travailler ce qu'il faut, mais tu vas prendre le temps pour le faire. Je pars en vacances tous les 7 semaines. Qu'est-ce qui se passait? Je choisissais mes destinations en fonction des décalages horaires. Avant. Ouais. Donc, quelque chose que je faisais. J'allais dans les Caraïbes en hiver. Je me levais à 5h du matin, heure Caraïbes.
Okay.
Il est 10h heure française.
Ouais.
T'as ta journée normale, 5h du matin. De 5h du matin à 10h du matin,
ouais,
mes enfants, ils dorment, ma femme, elle dort. J'ai travaillé de 10h à 15h, non-stop. J'ai fait ma journée.
Et donc après, tu profites.
À 10h du matin, j'avais mon esprit libéré. J'étais au petit-déj avec ma famille, on allait à la piscine, on allait à la plage, on faisait nos trucs. J'avais des vraies vacances. À 20h, 20h30, 21h, j'étais éclaté, j'allais me coucher.
Ouais,
je me relevais à 5h du matin, je travaillais. Et donc, j'ai fait ça pendant très longtemps, où c'était, je faisais mes décalages horaires. Je regardais les décalages horaires en fonction de si je peux travailler, je peux pas travailler.
Très bonne méthode, ça.
C'est un choix, ouais. Tu vois. Et j'avais pas de remords, et je me disais pas, tiens. Et il y avait pas un mec qui se dit, putain, il est pas là. Si, j'étais là, gars. J'étais même là plus qu'avant. Les mecs, ils me disaient, je t'en supplie, Ralph, pars plus en vacances. Parce que de 10h à 15h, j'étais encore plus chiant. J'étais là, j'étais posé sur la plage à 5h du mat avec mon PC, et j'étais hyper efficace et je faisais toutes les choses. Pendant des années et des années, moi, j'ai dormi 3-4 heures par nuit pendant plus de 25 ans. Je l'ai payé d'ailleurs. Je dormais pas assez. Je me réveillais toujours à 4h, 5h du matin. Je faisais mes mails, t'es tranquille, ta famille n'est pas là. Et à 8h, je prenais mes enfants, j'allais au café, je m'asseyais en terrasse avec eux de 8h à 8h20, c'est notre temps à nous, après je les amenais à l'école, et j'allais travailler. Et tu profites du moment sans te dire, ah, merde. Et je pense que tout le monde est capable de faire ça. C'est juste qu'ils n'ont pas envie de le faire, c'est tout.
C'est fort, non, en fait, c'est juste fort de réussir à le faire, en tout cas, et de tenir comme ça. Tu as commencé à en parler en disant, en parlant de ta santé, je l'ai payé un peu. Est-ce que le travail, c'est la santé? Ou est-ce que faut-il parfois privilégier la santé au travail? Le travail et la santé, comment toi tu le perçois un peu, toutes ces choses-là?
Le travail, c'est la santé, mais il ne faut jamais oublier que faut penser à soi. Et moi, je l'ai oublié, je l'ai payé, ça a été dur. Maintenant, je fais attention.
À 45 ans, je crois que tu as eu des soucis de santé.
À 45 ans, j'ai eu des gros soucis de santé, très gros soucis de santé. Je me suis arrêté 3 ans, je me suis soigné, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et je vois la vie différemment. Et je me trouve encore plus fort qu'avant, parce qu'il ne peut pas m'arriver pire que ce qui m'est arrivé. Et du coup, tu avances. Et des petits moments que tu trouvais anodins ne sont plus des moments anodins. Des problèmes que tu as avec un fournisseur, un client, ou tu avais. Ok. Tu vois, c'est
pas la santé.
Pas la santé. Donc, du coup, tu peux relativiser les choses, mais je pense qu'il faut s'écouter. Et en fait, quand tu travailles trop, moi, je ne m'écoutais pas. C'est-à-dire que tu dors 3-4 heures par nuit, je voyageais beaucoup, je faisais n'importe quoi, t'as le stress, tu te fais des coups de sang, des coups de stress pour rien du tout. Du coup, ça joue sur ta santé, c'est normal. Et maintenant, je le ferai plus.
Ouais, mais ça veut dire que t'as dû dégager des choses, forcément, parce que si tu dors 3-4 heures par nuit, ça veut dire que tes journées sont forcément hyper remplies. Pour dormir 7 heures par nuit, t'es obligé de dégager des choses?
Je les dors toujours pas, mes 7 heures. Mais je me mets au moins au lit, mais je les dors toujours pas. C'est-à-dire que je m'endors avec une oreillette pour éviter de penser. Donc, si je ne mets pas une oreillette, je ne mets pas un podcast ou une musique ou un truc, c'est foutu. Toute la nuit, je vais penser à la journée, machin, un truc. Donc, maintenant, je me force. Avant, je ne le faisais pas. Je me posais, je revoyais les dossiers. Tiens, si, ça, truc. Et tu ne dormais jamais. Ton cerveau, il ne s'arrêtait jamais. Tu ne dormais jamais. En fait, tu étais en fatigue. Et puis, au bout d'un moment, tu t'effondres. Moi, je me suis effondré. Je tombais malade 3 jours après avoir vendu ma boîte.
Ouais, parce que toi, il me semblait avoir entendu justement, tu disais, à 45 ans, je vais arrêter de travailler.
En fait, mon papa, qui a travaillé toute sa vie comme un chien pour nous donner l'éducation qu'on a eue et je le remercierai jamais assez, 3 semaines après sa retraite, il fait un AVC. Donc le mec, il a travaillé toute sa vie comme un chien pour nous élever et le jour où il peut en profiter,
il peut pas,
un AVC terrible, tétraplégie, terrible. Et moi, j'avais 25 ans quand c'est arrivé, je dis, mais jamais de la vie, je veux ça. Et je me suis dit, 45 ans. Et tu vois, comme quoi la vie est mal faite, il m'est arrivé la même chose. À 45 ans, je vends et je kiffe. Et à 45 ans, ma boîte, elle était au top du top. Il y a des gens qui disent, ça nous intéresse, go, prends. Prends, gars.
Ouais, ça te fait bien.
Prends. De toute façon, je l'avais décidé. Et pas 3 jours après, je me sens pas bien. Et les mecs, tout de suite, ils te disent, ah, mais c'est t'es en dépression parce que t'as vendu, c'est le contre-coup de l'entrepreneur. Non, regarde, moi, je l'ai décidé, ça fait 20 ans que je dis que je vais arrêter. C'est pas, moi, je travaille pas pour l'argent, je travaille pas pour la gloire, je travaille pas pour tout ça, je travaille pour avoir une liberté. Moi, je suis quelqu'un qui aime la liberté, je voulais de la liberté. Donc, à 45 ans, je vais kiffer. J'ai pas pu. Et du coup, j'ai assimilé. Maladie avec le pas de travail, du coup, faut travailler.
Le travail, c'est la santé. Le travail, c'est la santé pour toi.
Parce qu'en fait, quand tu travailles, ton corps, tu l'écoutes pas. Mais en fait, il faudrait l'écouter.
Mais c'est... Alors, ça m'est arrivé à moindre échelle, forcément. Mais quand j'avais quitté... À chaque fois que je quitte une boîte, je tombe malade. Tu vois, vraiment. Parce que souvent, j'ai un rythme de malade mental. Je prends très peu de vacances, donc c'est pas bien. Je déconseille aux gens, prenez des vacances.
Il faut prendre des vacances, c'est très important.
Et j'ai souvent eu du mal parce qu'à un moment, j'ai enchaîné, tu vois, la fin d'alternance avec un contrat. Puis j'étais freelance. Donc en fait, pareil, freelance, t'as du mal au début à prendre tes vacances. Puis après, j'ai pris un nouveau contrat en arrivant à Paris. Noël, ils m'ont volé des jours de vacances parce qu'ils m'ont obligé à poser. Donc c'était pas vraiment des vraies vacances. Donc j'ai continué, j'ai enchaîné. Et puis ensuite, je commençais un nouveau taf 3 mois après. En fait, je me suis jamais posé. Tu vois, parce que quand tu commences un job, t'as pas assez de vacances. Donc, je me posais jamais. Donc, je quitte Buzzman, c'était l'an dernier. Voilà, oui, c'est pas un secret. J'ai quitté Buzzman, voilà. J'ai quitté Buzzman en mai dernier, le 17. Je pars à Lyon parce que j'ai un tournoi de tennis. Je rejoignais Julien Monet, qui est un très bon copain que je salue d'ailleurs, de l'agence Citadelle, groupe Monet associé. Bon, c'est le mec qui part. En fait. Bon, je reviens. Et vraiment, le week-end, trois jours après avoir pas posé ma dème, mais être parti de Buzzman, je suis malade comme un chien, mais pas bien.
C'est la pression qui redescend, c'est normal.
Et pas bien, jusqu'à vomir la nuit.
Oui, quoi, c'est... En fait, il faut l'écouter. Et on ne les écoute jamais.
On s'écoute jamais, et tu vois, au final, je me dis, en fait, j'avais à peine une semaine pour profiter, tu vois, et j'ai même pas profité de mon arrêt avant de reprendre
le
boîte.
C'est pour ça que moi, j'anticipe le kiff et maintenant, j'anticipe le profit.
Tu kiffes pendant ?
Je kiffe avant, ouais. Pendant, et je m'imagine en tant que kiffer, comme ça, je suis sûr que je kiffe. Non, mais ouais, c'est important, faut s'écouter, on s'écoute pas. Ouais. Tu travailles dur, tu t'écoutes pas. Et ton corps, même la maladie, tout ce que t'as, en fait, le stress, l'adrénaline, tout ça, les empêche de se montrer. Du coup, ouais, toi, ouais. Tu le vois, tu l'as, mais tu sais pas que tu l'as parce que t'es sur les nerfs en permanence et t'es en train d'aller. Et le jour où tu lâches ta pression, tout sort et c'est pas bon.
Ouais, mais c'est hyper difficile. Tu vois, toi, tu as peut-être vécu justement en partant de rien, entre guillemets, où tu partais vraiment avec des bases pas forcément hyper.
Oui, c'était pas gagné.
Sur le papier,
c'était pas gagné.
Tu vois.
Ah oui.
Et ça peut aussi être le cas quand t'as pas forcément beaucoup, t'essaies de donner énormément, produire, parce que tu dis c'est le seul moyen pour moi de grandir.
Après, c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que soit t'aimes travailler, soit t'aimes pas travailler, ouais, en fait. Je veux dire, c'est ce que on le dit, je pense que tu dois sûrement être comme ça. Si t'as commencé un taf, tu le fais. Mm-hmm. Tu te poses pas de questions.
Ouais, ouais.
Tu bosses, en fait. Et c'est dur de travailler. Mm. Quand tu fais tout à fond, c'est fatigant. Mais il y a des gens qui arrivent. Moi, je les envie, mais pas trop. Qui arrivent à se dire, on va y aller mollo. Non. Et si on arrive là, on en est, c'est parce qu'on a travaillé dur.
Mm. Ouais, c'est pas
parce qu'on nous l'a donné.
Ça fonctionne aussi. Tu parles de ta maladie, t'en as parlé. Je trouve que les dirigeants, et on en parlait en off juste avant, les dirigeants ont du mal à parler de leurs faiblesses comme ça. Toi, est-ce que c'est naturel d'en parler ou est-ce que tu te dis, il faut que j'en parle ?
J'en avais jamais parlé, même pas à ma famille. Donc,
ah ouais ?
Ouais, mais mes enfants ne savaient pas. Non, c'est... En fait, il y a l'acceptation. Au départ, puis on a une figure, tu dois montrer toujours que t'es un rock, que t'es dur, que t'es ci, que t'es ça, mais non, on est malade comme tout le monde, on est fatigué comme tout le monde, on est énervé comme tout le monde, on est d'ailleurs on est tout le monde, on est rien en fait. Oui, c'est normal, t'es malade. Et ben tu te soignes et t'essayes d'avancer. Après, tu dois pas mettre en péril ta structure. Donc moi je travaillais pas, donc ça va. Mais je serais parti, c'est parce que je sentais que ça allait bien, pas bien aussi, que j'ai vendu, mais faut pas s'accrocher si t'es pas bien, et faut le faire, mais en parler, et c'est pas parce que t'es chef d'entreprise que t'as pas le droit d'être malade, hein. Que t'as pas le droit d'aimer tes enfants, que t'as pas le droit d'aimer ta femme, que t'as pas le droit de partir en vacances avec eux, que t'as pas le droit de pleurer quand c'est son anniversaire. T'es comme tout le monde. Par contre, au taf, t'as pas le droit de montrer tout ça. Quand t'es devant le taf et les choses que t'as à faire, tu les fais.
T'as des rituels un peu au travail ? T'as des rituels quotidiens ? Bon, tu parlais des rituels un peu entre la famille, le travail, le pro, le perso. Est-ce qu'au taf, tu te dis quand t'arrives, je fais ça ?
J'en avais avant plein. En fait, la chance que t'as quand t'es un peu plus âgé, ça s'appelle l'expérience, c'est que maintenant, il me faut beaucoup moins de temps pour faire des choses qui me prenaient un temps fou avant. Donc, il y a cette intuition qu'on a, où tu sais, tu dis, moi, j'ai un truc, quand je sens qu'il se passe un truc, il se passe un truc.
Ouais.
Tu vois, ça peut paraître fou, mais... Et donc, du coup, c'est tout de suite, tu dis, non, là, il y a un truc que je sens pas, il se passe quelque chose, et finalement, tu vas le trouver. Et du coup, c'est beaucoup moins de travail que ce que ça me demandait avant. Avant mes rituels, je me levais à 4-5 heures du matin, je prenais mes mails, j'étais tranquille à la maison, avec les enfants en bas âge, ils étaient pas réveillés, je pouvais faire mes trucs. Là, maintenant, j'ai plus besoin de le faire. J'avais plein de rituels comme ça. J'avais le rituel du déjeuner avec ma fille, que j'ai plus là maintenant. Elle en a rien à foutre de manger avec son père.
Elle veut plus
entendre parler de son daron. Elle va manger toute seule. Voilà, j'ai tous ces... Mais j'ai pas vraiment de rituel. Le rituel avec Francky, où on aime bien manger ensemble le midi, on parle beaucoup, ouais. On dit des choses. Voilà, c'est... Le rituel du midi est important.
Francky, c'est important dans ton quotidien ?
Bah oui, c'est la personne que je vois le plus par ma famille, donc oui, c'est important. Et c'est important qu'on se soutienne, c'est important qu'on soit dans la même direction. On peut ne pas être d'accord, mais il faut qu'on en parle. Mmh. Oui, c'est important. C'est-à-dire que tu ne crées pas un projet comme Achille en disant que ce n'est pas important. Surtout, il y a tellement de choses à faire qu'il faut qu'on soit deux minimum pour le faire. Et puis, on s'entend bien et on ne se connaissait pas. Et ça se passe très, très bien.
Tu aurais aimé le rencontrer plus tôt ? Ou non, c'est des parcours de vie, tu te dis, c'est fait à l'instant que ça devait se faire ?
Non, mais le truc qui est fou, c'est qu'on était dans la même industrie, on connaît des milliards de personnes en commun. On
s'était jamais vu.
Mais on avait la même industrie. Il connaissait ma boîte, je connaissais sa boîte, on connaissait 10 millions de personnes en commun, mais on s'était jamais rencontrés. Et mais le rencontrer avant, je n'avais pas l'occasion et pas de raison, en fait. Mm-hmm. Là, on s'est rencontrés au bon moment. Moi, j'avais besoin de quelqu'un comme ça. C'est quelqu'un de brillant. Pareil, autodidacte, c'était important, qui a besoin d'avancer et qui travaille dur. Et qui a peut-être un peu plus de santé, de force que ce que moi, je pourrais mettre. Donc, j'avais besoin de me dire, j'ai besoin de quelqu'un qui va tenir la route si j'ai des faillances de mon côté.
Mais c'est intéressant ce que tu dis. En fait, c'est une question de moment. Donc, en fait, tu crois, on va dire, à cette idée que tout peut se passer à n'importe quel moment et que si une rencontre doit se faire, elle se fera.
Moi, je suis ultra superstitieux. Alors, tu me dis que j'ai des trucs. Je mets les chaussettes dans le même sens. Je passe pas sous les échelles.
Chat noir, non, c'est vite.
Chat noir, quand j'en vois un qui passe, j'évite de faire des choses. Des rituels, si j'arrive le matin au taf, je passe un coup de fil, il se passe mal, je téléphone plus de la journée.
Ah ouais ?
Terminé.
Ok.
Je me dis, Ralph, t'as pas été bon là. En fait, c'est très important de savoir se remettre en question, de se dire, c'est moi qui ai déconné. Tu vois? Donc, t'appelles un mec, t'as pas été très bon, je dis, putain, là, je vais pas être bon. Ok, il y a plein d'autres tâches dans la journée à faire. Le mec qui m'appelle, je l'appellerai demain. Voilà, je repousse en me disant, ben, je vais analyser ce que je viens de faire là, pas bien.
Ouais.
Et je le ferai plus tard.
Pourquoi?
Okay. Mais vraiment, j'arrête tout. Et des fois, par exemple, on faisait du démarchage, on appelle un, ça marche, j'appelle deux, ça marche, troisième, ça marche pas. Mais les autres, ils étaient comme des fous. Ralph, ça marche, viens, on continue. Non, on arrête. Il me dit, prends des points fous. Non, mais Ralph, non, on arrête. Je ne le sens pas.
Tu le sentais pas.
Les mecs, ils m'ont pris pour une diva. C'était pas la diva. Je le sens pas. On va arrêter parce que je veux pas cramer
ton capital.
La chance. Ouais, non, mais la chance de le revoir ou le capital du mec ou. Et donc ça, voilà, c'est ces petites choses-là que je fais. C'est le syndrome de la photocopieuse quand t'as une tâche, tu vas faire de la photocopie parce que ça te demande pas de réfléchir et tu vas faire tous les trucs que t'as à faire et tu vas garder le truc plus dur pour quand tu te sentiras mieux.
Les interviews, c'est facile à faire pour toi aujourd'hui ?
Faut le faire. Encore une fois, je te dis, j'ai cette chance, je me pose pas la question. Est-ce que j'en ai envie, je me pose pas la question. Est-ce que ça va être dur, je me pose pas la question. Si je m'étais posé la question, on fait pas Achille, en fait. Tu vois, et dans la vie, il y avait une phrase qui disait, Bouygues l'a pensé, essaie faire la pensée, Bouygues l'a fait, ou un truc à la con comme ça. Il y a plein de gens, ils disent, je vais faire, je pense, ils font pas. Moi, je pense pas, en fait.
Une fois
que c'est fait, moi, Marie-Blanche, elle me dit, faut aller là, je vais là, faut faire ci, je fais ci. Et si je me pose la question, est-ce que j'en ai envie? Non, je n'ai pas envie. Mais je le fais.
Si t'as pas envie d'être là, du coup, tu
sais. J'ai super envie d'être là. J'ai envie d'éclater le pain au chocolat depuis tout à l'heure, mais je le prends pas. Non, voilà, ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, je me pose même pas la question. C'est pas une question d'envie, pas d'envie. C'est, t'as un job, tu le fais. Je représente la boîte, je suis là pour la représenter, on me demande d'y aller, j'y vais. Et je vais pas dire non, j'y vais pas.
Jusqu'à sur les réseaux sociaux aussi, on te voit en tenue de licorne.
Je me déguise en licorne, je fais des trucs. Des fois, je dis, putain, il faut en faire des choses, mais je me pose pas la question. En plus, ça me fait rire, ça me plaît, je m'en fous. Plus ça les rend fous, plus ça me fait rire. Plus c'est décalé, plus les gens disent, mais c'est pas normal, plus ça me fait rire. Je le ferai, tu vois, mais je me force pas. Je me force pas à le faire.
Je crois en plus, tu disais, j'ai lu personnalité numéro 1 de l'assurance. C'est quoi ce trophée? C'est quoi ce.
Ah ouais, on a gagné, c'est bien ça. On a été talent, c'est encore mieux, tu vois.
Le terme talent, il est fort en plus. Tu dis que tu as un talent à 50 ans?
Ouais, moi, dont j'étais le plus fier, c'est que plutôt mes équipes ont gagné aussi des talents. Et donc en fait, il y a eu 9 talents qui ont été nommés ce soir-là, les talents de l'assurance, parmi toutes les boîtes de l'assurance.
Ouais.
Et on est 3 à Schiller gagné les talents.
Purée. Ah, ce qui veut dire que c'est une boîte bien talentueuse. Hein.
Ouais, c'est que des purs talents.
C'est facile de recruter, justement, pour toi. Avec l'expérience que tu as maintenant, c'est facile. Ou où j'ai pas de vous, en fait. Est-ce que c'est facile pour
de recruter? Quand on a créé Achille, c'était pas facile de recruter.
Il faut bien s'entourer, c'est le début, non, les premiers recrutements surtout. Le
premier jour, le début du Covid, tu montes une compagnie d'assurance qui n'existe pas, tu n'as pas d'agrément, tu appelles un mec, tu lui dis écoute, tu vas démissionner de ta grosse boîte d'assurance sur laquelle tu es bien au chaud pendant le Covid, et moi je ne suis même pas sûr que ça va marcher.
Ouais.
Là, je peux te dire que tu n'as pas un mec qui vient. Et on a des mecs fabuleux, des gens fabuleux qui sont venus et qui ont cru et qui l'ont fait. Je parle des Franklin, des Pauline, des Marie-Blanche, des gens qui se disent ok, on va y aller, et d'autres, des Emilien, il y a plein de gens qui sont venus. David, notre CTO, qui dit mais en mai 2020, tu démissionnes de tes boîtes pour rejoindre une boîte comme Achille en plein Covid, c'est confinement, on sait même pas de quoi l'avenir est fait. Faut être fou ou des génies, ou c'était les deux. Ils sont venus. Donc c'était plus dur de recruter. Je t'avoue qu'aujourd'hui, recruter chez Achille, c'est pas très dur. Les gens ont envie de venir chez Achille.
C'est plus facile, ouais.
Ouais.
Mais ça me fait penser, lorsque tu parlais de la confiance, et là je reviens sur les discussions qu'on avait sur Xavier Niel et autres tout à l'heure, être prof et intervenant, parce que je te disais, j'interviens dans des écoles, à la fac, ça m'a appris énormément l'humilité aussi. Parce que je donne du temps à des gens qui n'ont rien prouvé ou qui n'ont pas prouvé. Tu vois, donc c'est en quelque sorte un investissement aussi. Parce que peut-être que sur les 25 élèves que j'aurai, peut-être zéro continuera à faire de la communication. Donc tu te dis, est-ce que tu as perdu ton temps? Est-ce que tu as perdu tout ça? Et je trouve ça hyper intéressant, en tout cas, de donner, tu vois, ce côté pédagogue, cette pédagogie de manager, parce que ça reste du management, tu vois.
C'est hyper intéressant. C'est toujours, parce que moi, je l'ai fait. Moi, j'ai été éducateur, je t'ai dit, je me suis occupé d'enfants en difficulté et autres. Et on me dit toujours, tu le fais pas pour ce qu'ils vont te donner, tu le fais pour ce que ça t'apporte à toi. Mmh. Et moi, j'étais super content quand j'entrais le soir. J'étais mort, hein, je peux dire, avec les petits cons qui, toute la journée,
forcément.
Tu rentres, t'es KO. Ouais. Mais c'était du chaos, du bon chaos. Tu vois, t'es fier de toi. Mais t'attends pas. Est-ce que tu leur as appris quelque chose? Est-ce que t'as fait quelque chose de bien? Est-ce que t'as fait quelque chose de bien? Tu t'attends pas à ça. Tu vois, c'est pas ton rôle. C'est là que tu te dis, mais en fait, ton taf, c'est pas de savoir ce qu'ils vont prendre, c'est qu'est-ce que tu vas leur donner, où tu vas t'arrêter et qu'est-ce que tu vas faire. T'es étudiant, t'es là pour leur donner, ils prennent ce que tu leur donnes, ils savent quoi en faire tant mieux, ils savent pas quoi en faire tant pis, mais toi, si tu le fais, c'est pour ton bien-être aussi à toi. Je pense que des fois, faut être aussi un peu égoïste et penser à soi. Et on peut faire du bien en étant égoïste, en fait. On peut faire du bien en pensant à soi. Moi, j'aime bien transmettre, j'aime bien tout ça, et ben, je le fais aussi pour moi parce que j'aime bien le faire.
Ouais, ouais.
Si t'aimais pas le faire, tu le ferais pas.
C'est vrai.
Et après, donc, je pense pas à ce qu'ils vont faire. Après, t'aimerais que les mecs, ils te disent, ah, c'est génial, merci pour ce que t'as fait, ainsi de suite, mais faut pas l'attendre. Mm. Moi, quand j'ai travaillé pour des enfants comme ça, je travaillais pour des enfants un peu difficiles, et j'ai eu la chance dans l'endroit où j'ai vécu, il y a des gens qui étaient footballeurs professionnels. Un qui a joué au PSG. Et donc, je l'appelle et je lui dis, écoute, j'ai des enfants, est-ce que tu peux m'organiser une visite du camp des loges avec l'entraînement, les amis, on le fait, c'était l'époque Bernard Lama, Jorquet, Fry, la grosse équipe du PSG qui a gagné la Coupe, vraiment le truc, Luis Fernandez entraîneur et tout, ils nous reçoivent et tout, et les gamins, ils foutent un bordel, mais un truc de fou, ils cassent les grillages pour piquer les ballons, ils rentrent dans les vestiaires pour piquer les trucs, un truc de fou. Et les mecs me disent, mais t'es fou, pourquoi tu fais ça? Je dis, mais je fais pas ça pour... J'attends pas en retour, moi j'ai fait mon job. Je dis, si le mec il est assez con pour pas comprendre que le mec il t'amène voir tes idoles et t'es pas capable de te tenir bien, moi j'ai fait mon job, j'ai fait ce que je devais faire après. Et du coup, je suis resté copain avec les mecs qui s'organisaient ça. Et j'ai passé des trucs de fou avec eux, ils m'invitaient au parc, ainsi de suite, parce qu'ils disaient, mais t'es fou de faire tout ça en fait. Et moi j'adorais. Et je prenais ce recul en disant, mais c'est pas grave, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Eux ils l'ont pas fait, bah tant pis. Moi, il y en aura peut-être 2, 3, 4 dans cette histoire. Il y avait un gamin, il avait reçu les gants de Bernard Lama. On était au mois d'août, c'était centre aéré, il faisait je sais pas combien de degrés, il les a gardés tout le mois. Et le gamin, c'était sa vie, rien que pour se souvenir de ce gamin qui toute sa vie se souviendra qu'il a vu. Et puis les petits cons qui ont fait les trucs, bah, c'est pas mon problème.
Bon,
j'y pense pas.
On parlait de ton âge tout à l'heure. Y a une phrase que j'aime beaucoup sur l'âge et surtout sur les 50 ans, qui est de Jacques Séguéla. Si à 50 ans, on n'a pas une Rolex, on a raté sa vie. Alors, est-ce que je peux juste voir ton poignet?
Je vais te le montrer, mais c'est pas le vrai poignet.
Donc, t'as pas de Rolex?
Moi, j'ai doublement réussi ma vie.
Ouais. Non, la vraie question, c'est est-ce que t'as une Rolex? Est-ce que tu estimes avoir réussi ta vie? Même sans Rolex.
J'ai 2 Rolex. Donc c'est pour ça que je dis que j'ai doublement réussi ma vie. Et je ne les porte pas parce que c'est de la merde, ça ne sert à rien. mais à un moment de ta vie, t'as besoin de montrer aux gens que t'as réussi, tu sais même pas pourquoi. Et donc, tu vas t'acheter une Rolex à la con, qui est même pas belle, tu vas la mettre, et tu vas te dire, le mec, il va la voir, il va savoir que j'ai réussi. Moi, ma réussite, ma première truc qui me... Quand t'es un petit jeune de banlieue, les Champs-Élysées, c'est l'endroit où tu vas le dimanche. Et maintenant, je me rends compte avec le recul que je faisais partie de ces jeunes qui font peur aux gens quand ils arrivent le dimanche sur les Champs-Élysées en bande. Toi, tu viens juste pour voir des belles choses et eux, ils pensent que tu viens les agresser ou qu'est-ce que t'as pas. Et en fait, moi, je regardais le magasin Weston.
Ouais.
Et je voyais des gens acheter des chaussures à 600 balles, 700 balles, 1000 balles. J'avais l'impression, je me dis, mais qui peut acheter ça? Ben, la première chose que j'ai fait avec mon premier salaire, je suis rentré chez Weston. Je me suis acheté une paire de mocassins et j'avais tellement peur que le mec me dise t'es pas à ta place que j'ai limite je les ai pas essayés quoi. J'ai dit je veux ça truc, j'ai entré, il va me les vendre, je les tu vois, c'était ce syndrome de l'imposteur au truc, voilà. J'étais plus heureux à l'achat de ma première paire de Weston que ma Rolex, et du coup maintenant les Rolex je les ai plus et je les porte pas. Et mais tout comme t'avais envie de les avoir.
Tiens, dommage, je pensais que t'en avais pas, du coup, en fait, ça aurait été encore plus sympa dans l'histoire. Mais, ouais. Mais c'est vrai que même sur les événements, tu te balades avec ton sweat à capuche, en fait.
Alors, moi, je les ai, mais pas pour la même raison que tu crois. Je les ai parce que je me dis, faut que je les ai. Moi, les mecs me disent, j'avais ce problème-là, ils me disent, avec tout l'argent que t'as gagné, que ta voiture c'est de la merde, t'as pas de monde. Les gens, en fait, c'était le regard des autres qui me disaient, mais.
On t'obligeait à avoir une Rolex.
On t'obligeait pas, mais on te disait, en fait, tu passes pour un rat parce que t'aimes pas ça. Moi, j'aime pas conduire, par exemple. Je déteste les voitures. Moi, j'ai pas de truc ostentatoire, de signe extérieur de richesse. Alors, j'ai un bel appartement. Mais voilà. Par contre, je fais plein de beaux voyages. Mes enfants sont des vrais bourgeois du 16, mais moi, non. La Rolex, c'était différent. C'est bizarre. Hein. Mais c'était pas la réussite d'entrepreneur. La Rolex, je me la suis achetée quand j'ai commencé à bien gagner ma vie tout au début.
Tu me la prêteras pour un prochain événement?
Si tu veux.
Ouais, comme ça, bon.
Mais en fait, tu sais qu'à Paris, on peut plus les mettre, hein, tu te fais agresser.
Bon, je ferai gaffe alors. Mais de toute façon, je sais courir vite. Ouais. Le bonheur, un état d'esprit, c'était un post LinkedIn que tu faisais il n'y a pas si longtemps.
Ouais.
Et tu disais surtout, arrête de courir après ce que tu n'auras jamais.
Ouais.
Et j'ai trouvé hyper intéressante cette phrase, arrête de courir après ce que tu n'auras jamais.
Moi, je pense que ce qui m'a aidé le plus dans ma vie, c'est que j'ai jamais voulu des choses que je pouvais pas avoir. C'est-à-dire que je me donne les moyens de les avoir, mais je me dis pas, putain, j'aimerais être beau, mesurer 2m10 et avoir des tablettes de chocolat. Ben, c'est pas vrai, je suis pas beau, je pourrais jamais 2m10 et j'aurais jamais des tablettes de chocolat. Mais il y a des gens, ils y croient, ils mettent des fils sur leur téléphone, ils disent, je veux être comme... Non, tu peux pas l'avoir, tu peux pas l'avoir. Donc, ça veut pas dire que j'ai pas d'ambition, que j'ai pas envie d'y aller. Je vais y aller, mais j'y vais en me disant, je vais l'avoir. Mais je me fais pas des choses que je peux pas avoir. Donc, et trop de gens courent après des chimères, après des choses qui servent à rien, après l'argent, après tout ce truc-là. Alors, c'est facile de dire que tu cours pas après l'argent quand t'en as. C'est très facile.
C'est plus facile.
Ouais. C'est très, très facile, tu vois. Mais c'est une réalité, arrêtons. Et même, moi, je vois des gens qui continuent à taffer avec tout ce qu'ils ont. J'ai envie de te dire, qui veulent toujours plus. Mais pourquoi, en fait?
Ouais, mais dans ce cas, tu parles de chimère. Comment on sait qu'une chimère est véritablement une chimère? Tu vois, parce que c'est facile de se dire,
oui,
je rêve trop grand, mais comment on peut vraiment savoir qu'on rêve trop grand?
Je pense, après, si on se mentant pas à soi-même, t'as des mecs, ils se persuadent qu'ils sont les plus intelligents, qu'ils sont les plus forts, qu'ils sont les plus beaux, ils se mentent à eux-mêmes, en fait. Moi, je sais que c'est pas vrai. Donc, je sais où sont mes limites, je sais où sont où je peux m'arrêter. Donc, voilà, c'est pas une chimère, c'est, est-ce que j'aurai l'éducation qu'ont eu mes enfants, est-ce que je... Non, jamais. Est-ce que je ferai partie de ce monde et de cette caste? Jamais, tu vois. Et je ne me vois pas arriver là où je ne suis pas, parce que j'y serai jamais. Ma femme, elle a toujours le bon mot qu'il faut, elle a toujours le petit message qu'il faut donner, elle oublie jamais une fête, un machin, un truc. Moi, je suis un blédard, tu vois, j'oublie tout ça. Et je ne l'aurai jamais. Tu peux avoir tout l'argent, tu ne seras jamais comme ça, il faut le savoir. Par contre, je ne joue pas à l'être alors que je ne le suis pas. Et toutes ces chimères de... Non, c'est juste s'écouter et pas se voir là où on n'est pas.
Les chimères sont souvent liées à l'argent, j'ai l'impression. Tu vois, c'est l'or ou tout ce qui brille.
Oui, mais de toute façon, tout est tourné autour de l'argent chez plein de gens. Moi, le truc qui est le plus drôle, c'est que 100% des gens sont persuadés que je pense qu'au pognon. 100% des gens, alors que j'en ai rien à foutre. Mais quand tu réussis, tu gagnes du pognon. Et je vais pas dire non, j'en veux pas. Et je fais pas ça pour le pognon, c'est un jeu. En fait, moi je suis un joueur, on est une famille de joueurs. Moi je suis le dernier de 4 enfants. Même entre frères et sœurs, on jouait pas, c'était pas pour de l'argent.
Vous mettiez.
Donc tu jouais pas, c'est pour l'argent. Pourquoi? Parce qu'en fait, on aime tellement jouer que moi, j'arrivais pas à jouer avec mes copains. Par exemple, si je fais une partie de tarot et le mec, il fait n'importe quoi, ça m'énerve. Soit tu joues pas. Okay, et en fait, s'il y avait pas d'argent, les mecs, ils faisaient n'importe quoi. Donc, je faisais pas de l'argent pour le gagner, je faisais de l'argent pour qu'il joue. C'est ça qui est...
C'est tactique, en fait.
Tu vois, c'était vraiment... Ok, on va jouer de l'argent, comme ça, tu vas jouer. Je m'en fous de les gagner. Mais moi, je veux passer un bon moment avec un mec qui... si je gagne, c'est parce que je l'ai mérité, et pas parce que ça fait n'importe quoi. Et si je perds, c'est parce que, tu vois... Et c'était tout le temps ça. Et je trouve que le travail, c'est pareil. Tous ces enjeux-là, c'est... Et tout ça, c'est du jeu.
S'il n'y a pas d'argent, on ne se battrait pas autant, peut-être, des fois.
C'est ma théorie du flipper.
C'est quoi, le flipper ?
Je vais te raconter ma théorie du flipper, que je raconte tout le temps et que je racontais dans les leads. Moi, j'adore le flipper parce que on allait tout au bar tout le temps, jouer au flipper et autres. Et en fait, quelque chose que je me suis dit, c'est que je me suis acheté un appartement, pour la chose, je m'achetais un flipper. En fait, j'ai acheté un flipper. Et en fait, tu as ton flipper dans la maison, tu lances ta boule, tu joues, tu parles, ton copain il te parle, ta boule elle tombe, tu t'en fous, tu trucs, t'as pas payé. Tu t'en fous de ta partie.
Okay.
Quand t'as mis ta pièce dans le bar,
tu joues jusqu'au bout,
jusqu'à mon gars, mais ça peut trembler, je bouge pas. Tant que j'ai mis mes 10 balles là-dedans, je vais les jouer.
Ouais, ouais.
Ben c'est ça, cette théorie de flipper. Quand c'est gratos, tu t'en fous. Et moi, quand je vendais du lead, les mecs, ils me disaient, tu me les donnes et je te paye la transfo. Je dis, non, parce que tu ne vas pas les traiter. Paye-les-moi. Si tu me les as payés, tu vas les appeler. Si tu ne me les as pas payés, tu ne vas pas les appeler. Tu vas l'appeler quand tu auras le temps. Je ne les ai pas payés. Ben, le flipper, je n'ai pas mis ma pièce, je jouerai. C'est pas grave, tu as mis ta pièce, tu joues. Et en fait, ce rapport, pas à l'argent, mais ce que l'argent te fait faire, qui m'intéresse. C'est pas le rapport à l'argent, c'est... Tu seras plus sérieux s'il y a de l'argent. Tu seras plus concentré s'il y a de l'argent. Donc, mettons de l'argent et ça va mieux se passer.
Mais ça veut dire que tu obliges tes potes à mettre une pièce d'un euro quand ils viennent chez toi pour jouer au flipper ?
J'ai plus de flipper, mais déjà, ils doivent payer pour rentrer chez moi.
Comme ça, ils profitent.
Comme ça, ils profitent. Non, mais voilà, oui, non, c'est... Mais ma femme, par exemple, elle déteste jouer. Et donc, elle joue tout en rigolant. Elle s'en fout, elle s'en fout de gagner. Je peux pas jouer avec elle, en fait. Et elle peut, on peut pas jouer ensemble. Ça me rend fou.
T'es mauvais joueur ?
Pas du tout. Ah. Je suis un bon joueur.
Ah, bon, ça va alors.
Non, c'est bien sûr qu'on est mauvais joueur. Ouais. Je suis pas mauvais joueur, c'est... Je joue pour gagner. Je suis pas mauvais joueur. Mais par contre, en face, tu te bats. Tu te couches pas au premier round, tu fais pas semblant de perdre. Ça m'intéresse pas.
Mais j'ai un ami, Augustin, avec qui... Alors, il est très, très... mauvais perdant, et moi aussi, en fait, on se challenge sur tout. Tu vois, c'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait un petit ballon de basket et un panier... On va se challenger pour savoir qui va mettre le plus de paniers, alors qu'on a deux secondes, des fois, ou deux essais. Et vraiment, on se challenge sur tout.
Mais c'est ça qui fait avancer.
Sur tout et rien, même des fois, jusqu'à dire, OK, combien est l'addition au restaurant ? Tu sais, de se dire, OK, qui tombera le plus juste ? Alors, qui paye, oui, on le fait aussi, mais qui tombera le plus juste sur l'addition ?
Non, mais c'est... Donc,
la vie, c'est une compétition, en fait.
Moi, j'ai été élevé comme ça, avec mes frères et sœurs, tout était comme ça, en fait. Et t'avais toujours ce... Il faut que ça ait un sens, et c'est vraiment que les gens, faut tout donner, en fait. Ou alors tu le fais pas.
Donne tout ou le fais pas.
Ouais, vraiment. T'y vas ou t'y vas pas, mais tu fais pas semblant.
Un dernier conseil de sage que j'ai envie de te demander. On a parlé d'assurance. Revenons aussi au sens littéral du terme. Comment on gagne en assurance, en confiance en soi ?
En s'aimant un peu. Si toi tu t'aimes pas, les gens ils vont pas t'aimer. Et s'aimer, c'est pas être prétentieux, c'est pas être vaniteux, c'est prendre du recul, savoir ce que tu sais faire, ce que tu sais pas faire. Moi, je prends du recul, je me dis, bah, est-ce que ce que j'ai fait, c'est pas mal ? Bah, ouais, c'est pas mal. Y a pas de honte d'avoir fait un truc bien. Qu'est-ce que j'ai merdé ? Des trucs, oui, j'ai merdé. Bah, je vais essayer de pas les merder. Et donc, je pense qu'on apprend à s'aimer. Et quand tu commences à t'aimer, tu auras confiance en toi. Et d'être humble et de se remettre en question. Je pense que la meilleure chose, c'est de se remettre en question. Par contre, de pas forcément le montrer. Chose qui est très compliquée dans ce que je dis, c'est que tu as pris une décision, tu y vas. Tu sais qu'elle est pas bonne. Tu t'en fous,
tu vas quand même.
Pour montrer aux autres et tu trouves une solution pour que ça se passe bien, mais tu restes droit dans tes bottes par rapport à ce que tu as dit ou par rapport à ce que tu as fait. Et la confiance en soi, c'est 95% du taf en fait. Quand tu racontes un truc et que tu as confiance en ce que tu dis, même si tu dis de la merde, les mecs ils diront putain, c'est génial ce qu'il dit. Et donc ça s'apprend, mais il faut le faire. Donc faut s'aimer, faut se dire qu'on. Mais, faut prendre du recul sur ce qu'on dit et se dire bon là je déconne, demain je vais essayer de rattraper le truc. Voilà, après c'est pas un conseil de sage, c'est ça met du temps. Je me suis pas toujours aimé, j'ai pas toujours eu confiance en moi. J'ai toujours eu confiance en moi, toujours. Mais c'était une fausse confiance en fait. Je me forçais à avoir confiance en moi.
Jusqu'à quand? Enfin, jusqu'à quand c'était une fausse confiance?
Depuis quelques années, 3-4 ans, c'est plus une fausse confiance.
T'as attendu d'avoir réussi ou t'as...
On n'a jamais réussi, tu sais. On rate plein de choses tous les jours. Est-ce que réussir, c'est l'oseille? Est-ce que réussir, c'est la famille? Est-ce que réussir, c'est un travail qui te plaît? Est-ce que réussir, c'est, tu vois, c'est ce que je disais dans mon pote, c'est quoi réussir? C'est quoi être riche? C'est quoi tout ça? Donc, je ne sais pas si j'ai réussi. J'aimerais avoir la santé le plus longtemps possible, pouvoir faire tout ce que j'ai envie de faire. J'aimerais que quand je suis appelé là, on dise « putain, il a fait des choses bien ». Et maintenant, on est plus branché sur aider les gens et autres, et on a envie de transmettre quelque chose aux gens en se disant j'aimerais bien. Et ça, c'est plus facile quand t'as un peu réussi. Moi, j'ai vu mon père toute sa vie mettre en bleu ce qu'il gagnait et en rouge ce qu'il dépensait au centime près parce qu'il n'avait pas d'argent. Ce qui m'a forcé à me réussir, ce qui m'a donné envie de réussir. Je me dis, en fait, je voyais ces tableaux, ces cahiers de comptes. J'ai dit, je veux jamais faire ça de ma vie. Pour moi, c'était la pire des choses au monde, c'était de faire ses comptes.
De compter chaque centime.
Et j'ai jamais fait mes comptes de ma vie. Et c'était vraiment. Et je pense que ce cahier de comptes, il m'a aidé à réussir ma vie en me disant, mais putain, le mec, je le vois écrire chaque dépense, chaque truc avec sa calculette, à regarder comment il reste et tout. Mais c'est horrible, en fait. Et je me dis, voilà. Moi, j'aurais réussi le jour où j'aurais pas de cahier de comptes. Et pas de Ferrari, et pas de trucs. Je voulais pas de cahier de compte.
Quand on n'a pas beaucoup aussi, ça nous oblige à être créatif et ça nous oblige à y aller et à se forcer.
J'étais pas moins heureux quand j'avais pas beaucoup. Tu vois, j'ai toujours voyagé beaucoup. Je voyageais différemment. Et les mecs me disaient, mais Ralph, comment tu faisais? Je dis, mais non, mais tu pars en Thaïlande, t'as ton billet d'avion sur place, c'est rien.
C'est ridicule.
Toi, tu vas au camping dans les Landes, tu vas prendre un coca sur la plage, ça te coûte le prix d'une journée de bouffe en Thaïlande. Fais le calcul.
C'est bien vrai, même si j'adore les Landes.
Moi aussi, j'adore les Landes. Mais voilà, c'était toutes ces choses-là. Et donc, en fait, tu peux tout faire différemment. Il y a des gens qui... Il y a un reportage qui m'a marqué dans ma vie. C'était un reportage à la télé sur des gens qui habitaient Calais et qui allaient en vacances au camping de Calais, à 200 mètres de leur immeuble.
Non.
Je te jure que c'est vrai. Et ils étaient plus heureux que moi et toi réunis. Et moi, à cette époque-là, je commençais à réussir ma vie. On allait dans des beaux hôtels, 5 étoiles, machin. Et mes enfants, ils me prenaient toujours la tête. Il n'y a pas si, le wifi ne marche pas. Et, et je voyais ces gens qui allaient à Calais, au camping de Calais, à faire la chenille, à être heureux, à 200 mètres de chez eux. Le seul règle qu'ils avaient, c'est je t'interdis d'entrer à la maison parce que c'est les vacances. Tu te rends compte du truc?
Wow.
Et je me dis, en fait, tu es heureux là où tu as envie d'être heureux. Et ces mecs-là, c'est eux qui ont raison. Ils vont au camping de Calais, ils passent leurs meilleures vacances. Pour rien au monde, ils iraient au parc au camping de Calais. Et ils se contentent de ce qu'ils ont. Et je suis sûr qu'ils passent des meilleures vacances que moi, qui vais à l'autre bout du monde. Et que ça me coûte un bras. En fait, tu seras heureux là où tu as envie de l'être, c'est tout.
Donc là, tu pars à Calais dans 3 jours, ça?
Je pars à Calais, c'est pas tout à fait. Mais en fait, j'ai la famille de ma femme habite à Calais, donc j'y vais souvent maintenant. Mais je vais pas au camping. Mais ouais, non, je pars en vacances, mais pas à Calais. Ouais.
Mais super publicité, en tout cas, pour la ville de Calais, la destination.
Super ville, Calais.
On peut en parler. 1h30 d'épisode déjà. Est-ce que t'es un homme différent maintenant qu'il y a 1h30?
J'ai perdu 200 grammes. Non, est-ce que je suis différent? En fait, des moments comme ça où tu te poses 1h30 et tu parles de toi ou tu penses à toi, ça n'existe pas en fait dans notre vie. Et donc, oui, t'es différent parce que je me dis, tiens, je dis des choses que j'aurais pas dit. Je me suis rappelé des souvenirs que j'avais pas eus, des bons, des mauvais. Ouais, je suis différent. J'ai eu des flashs que j'aurais pas eu si on s'était pas rencontré aujourd'hui, si j'avais pas fait ces choses-là. Et puis, on les oubliera dans 1 heure ou pas.
Libre à nous de.
Mais je pense pas. En fait, si on t'a donné quelque chose de bien et tu vas en faire un truc bien, t'en feras un truc bien. T'as envie d'en faire de la merde, t'en feras de la merde. T'as envie de le garder, tu le garderas. T'as donné du bien à tes élèves, ils veulent le prendre, ils le prennent. Ils veulent pas le prendre, ils le prennent pas. Donne-le juste pour que le plus intelligent prenne ce qu'il a à apprendre.
Si jamais, enfin c'est pas si jamais, c'est cet épisode restera en tout cas de nombreuses années sur les plateformes d'audio. Est-ce qu'il y a un conseil ou une chose que tu aimerais dire au Ralph dans 20 ans? Tu vois, en principe, je demande est-ce que tu aurais aimé dire un conseil au petit Ralph, mais là, est-ce que tu aimerais donner un conseil ou une phrase que tu aimerais dire au Ralph dans 20 ans qui écoutera ce podcast, donc en 2044?
J'espère qu'il sera encore là. Déjà, tu vois, c'est la vision est différente. J'espère qu'ils seront encore là et j'espère que je serai encore un meilleur. Mais pas meilleur dans le sens fort, meilleur dans la personne. On a tous été des petits cons dans notre vie. On a tous cru qu'on était arrivé quelque part. On a tous fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire. J'espère que j'aurai des petits-enfants, que je m'occuperai d'eux, que je serai meilleur et que j'aurai servi à quelque chose.
Tout ce que tu amènes, cette authenticité que tu as eue, en tout cas pendant cet échange, on sent que tu n'as pas été avec des filtres.
Non, parce que je ne sais pas le faire. Et puis c'est pas mon éducation et c'est pas ce que je... C'est ce qui a été mon pire ennemi dans mes études, dans plein de choses, avec ma relation avec les gens. Et c'est ce qui est ma plus grosse force, en fait. Et après, la fin, il te reste autour de toi que des gens qui comprennent que t'es comme ça. Après, la vie est faite de compromis, mais on sera plus heureux si on en fait le moins possible.
Eh bien, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet échange. Deux choses à retenir. La première, c'est arrêter de courir après ce que vous n'aurez jamais. Courez après les bonnes choses. Courez 42 km s'il faut.
Oui, bravo.
Peut-être que je les aurais fait d'ici là, on verra. Mais je les aurais fait, ça c'est sûr et certain. Et surtout, prenez-vous au sérieux. Non, soyez sérieux sans vous prendre au sérieux.
Oui,
voilà, c'est une chose à retenir, c'est important. Merci beaucoup, Ralph.
Merci à toi, en tout cas.
À très bientôt.
Bravo, merci pour l'invitation. Yeah.